Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pas favori, on est même les tocards de la finale. On n'est même pas outsider, on est tocards.
C'est le but le plus important de ma carrière.
C'est ça.
Ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse. Hein.
Jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, l'after continue jusqu'à minuit et demi, comme lors de chaque soirée de Coupe d'Europe. Vous le savez, c'était Ligue des Champions. Ce soir, on s'est régalé dans l'after émission hein, qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier également avec nous ce soir. Salut Lionel.
Salut les copains, salut à tous.
Salut Lionel.
On va parler de l'OM évidemment en longueur. Supporter marseillais vous attend au 32-16. Et oui, c'est comme ça à Marseille. Tu ne peux pas gagner en 18 matchs, deux fois contre l'OM en Ligue des Champions. Non, je suis trompé.
Oui.
Tu ne peux pas battre sur 18 matchs 16 fois l'Olympique de Marseille.
J'ai toujours pas compris.
Non, c'est toujours pas bon.
Non, je sais pas ce que tu veux dire.
Tu fais exprès.
J'ai toujours pas compris.
Non, mais ça vient, vous vous rappelez de Gerulaitis Villas.
Oui, d'accord, et donc.
Et donc, Gerulaitis gagne après 16 matchs contre Connors, Gerulaitis-Connors. Gerulaitis, après 17
là,
matchs.
Là, on est dans l'introduction la plus pourrie de l'histoire de l'after, là, Lionel. Là.
Gerulaitis,
après 17... Après, je sais où il veut en venir.
Oui, mais... moi aussi.
Gerulaitis, après 17 matchs, bat enfin Connors. Il arrive en conférence de presse, il dit on ne bat pas Gerulaitis 18 fois.
Voilà. Ouais. Très bien. Okay.
Donc là, l'OM.
On ne bat pas 18 fois.
L'OM.
Ouais, en l'occurrence, c'est plus qu'ils n'avaient pas gagné. Voilà.
Bref, ouais, vous m'avez compris. L'OM ouais. Dans en longueur, supporter marseillais, vous entend en 32-16. 4-1 face au Sporting. Tout à l'heure, en début de soirée, il y aura ensuite le rôle de dame, bien sûr, pour les autres matchs du soir. Il y a des résultats étonnants. Hein. On a un Bruges de feu. On a un Naples en fusion. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des décisions de VAR à Porto totalement incroyables. Bref, de belles soirées de Coupe d'Europe. Évidemment, qu'on va débriefer ensemble. Et puis, il n'y a pas que la Coupe d'Europe ce soir. Il faut qu'on parle de Lyon. Après les déclarations de Sidney Govou, Jean-Michel Aulas s'est exprimé également aujourd'hui. Bref, on vous attend. Je le rappelle, dans son histoire en C1, l'OM n'a jamais perdu 17 matchs sur 18. Voilà, c'était ça la bonne phrase. On est préparé avec Jérôme Thomas pendant tout l'après-midi. Mais bon, bah, voilà.
Ah,
bah,
écoute, tu devais avoir la tête ailleurs.
C'est l'heure des 3 points, 23h05, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Et oui, 3 points de débat pour structurer notre heure. Lionel, quels sont tes 3 points ce soir?
Alors, après 17 matchs sur 18... Non, après 2 ans, en fin de compte. Ça fait 2 ans sans victoire, c'est ça? Écoute, celle de ce soir, cette victoire de l'OM, elle est très, très, très importante. Mais je ne suis encore pas totalement convaincu pour le futur de l'OM dans cette compétition. Ok, il y a 4-1, mais à 11 contre 10, je pense que l'OM aurait pu mieux faire. Ça aurait pu. Voilà, je reste un peu sur ma faim. En point numéro 2, malgré tout, j'ai bien aimé certaines individualités, Sanchez, Mbemba, Harit. Nuno Tavares, le côté gauche, j'ai trouvé avec Guendouzi, super. Et puis en 3, bah, je voulais parler de Naples, mais je vais parler de Tudor, que j'ai bien aimé, bien inspiré.
Daniel.
Alors, je vais peut-être perturber et choquer certains supporters de l'OM. Mon premier point...
Je pense que tu vas me rejoindre.
Mon premier point, c'est une grande victoire. Mais j'enchaîne directement sur mon point 2. C'est une petite prestation dans laquelle, paradoxalement, je n'ai rien vu de rassurant.
On est d'accord.
Et le troisième, c'est sur les autres matchs, parce qu'il y avait une très belle soirée de Ligue des Champions. J'ai particulièrement suivi les deux matchs des équipes italiennes. C'est une belle soirée italienne. Naples, incroyable. Vraiment, la prestation de Naples, incroyable. Et la victoire de l'Inter à l'arrache, mais vraiment à l'arrache de chez l'arrache, avec un petit arbitre domicile. C'était également l'un des clous du spectacle de la soirée. Voilà.
Alors, figurez-vous, pour démarrer, qu'on a Julien qui y était au stade. Ce qui en soi est une performance, vu que le match était à huis clos. Julien, bonsoir.
Ouais, bonsoir les amis.
Bah, comment t'as fait?
Bonsoir Julien. Bah ouais.
Bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein.
Bah raconte.
Bah rien d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y avait une tribune UEFA dédiée au match. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il doit y avoir des arrangements entre l'UEFA et les clubs. pour un huis clos, effectivement, il y avait une tribune qui était partiellement ouverte. Et j'ai une collègue qui avait un ami qui bossait de près ou de loin à l'UFA et qui m'a gentiment invité. Donc,
de près ou de loin.
C'est parti de la poignée de privilégiés qu'on peut assister.
Attends, Julien, il est bon. Julien nous a dit, j'ai un collègue qui avait un ami qui avait une place. Ah, mais, t'as non, bien noyé le poisson.
C'est la vérité. Je vais pas vous sortir le saucisson. La vérité, c'est comme ça que ça s'est passé.
Bon, donc, t'as été, t'as bénéficié d'un petit, t'as bénéficié d'un petit piston.
C'est même pas du piston, c'est la gentillesse, hein, c'est le petit coup de fil qui fait plaisir.
Très bien. Bon, bah, raconte un peu l'ambiance avant qu'on parle du terrain et du match, parce que c'était un peu spécial.
Sincèrement, je vais vous dire, même si on était privilégié, c'est le match auquel tu n'as pas envie d'assister parce que c'est dégueulasse. Voilà. Un match à huis clos de Ligue des Champions, c'est dégueulasse. Voilà. C'est pour donner un ordre d'idée, tu as l'impression d'assister à des funérailles. Voilà. Et tu as une musique de Ligue des Champions qui arrive, donc tu es de l'intérieur forcément, tu n'es pas à la télé.
Ouais.
Donc tu vois ces 66 000 places vides, tu vois ce stade qui est vide et tu vois ce protocole officiel comme si, ben voilà. Donc il y a un côté navrant. Et le pire, c'est quand tu arrives 30 secondes en avance et que tu n'as pas le temps de t'asseoir sur ton siège, que tu entends but pour Porto, parce qu'ils ont marqué à la 50e ou première minute.
53
secondes. Je venais d'arriver en retard, donc je suis un peu blasé. Donc je me dis, putain, voilà, scénario de merde, huis clos, ça va être terrible. Et puis ben, tu te rends compte que moi c'est ma théorie, alors après on la partage, on la partage pas, je l'avais dit avant que le match se joue, il y a certainement des joueurs qui pas se chient dessus, mais c'est vrai que quand tu joues au Vélodrome, à mon avis c'est une ambiance particulière, si tu n'es pas prêt voilà, à vivre avec 65 000 supporters chauds bouillants de la première à la 90e, moi je pense qu'il y a des joueurs ce soir qui se sont transcendés, c'est paradoxal ce que je dis, parce que justement, il y avait une ambiance mortifère. Je prends Balerdi, par exemple, qui a fait un match.
Ben non, mais il y a des joueurs qui peuvent être totalement inhibés par une grosse ambiance, en fait, et se retrouver, en fait, sous pression.
Mais à contrario, mais tu peux avoir beaucoup, des joueurs aussi qui te disent, pour une fois que je ne vais pas me faire siffler, si je rate un crochet, si je perds une balle, si je rate un contrôle. Tu vois ce que je veux te dire?
Alors, revenons juste quand même un peu sur les circonstances du début de match. Bon, il y a des matchs en retard. Alors, les Portugais, peut-être qu'ils l'ont fait un peu à l'ancienne, en prenant le temps, en se disant, tiens, on va essayer de déstabiliser l'OM. Ça a marché. Tudor était en colère, parce qu'on a démarré en retard. Et l'OM a pris un but d'entrée. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce scénario horrible, match à huis clos, là. Ça partait quand même très, très mal.
L'OM n'a pas pris que un but d'entrée. L'OM a été absolument dépassé à peu près partout, techniquement, mentalement, dans l'approche du match, pendant certes peu de temps, mais c'était absolument un cauchemar. Et l'OM était parti pour perdre ce match parce que tout simplement, c'est une équipe inférieure au Sporting. Il arrive parfois, ce qui peut se passer dans le foot, parce que ce sport propose parfois des scénars complètement dingues. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un gardien qui a massacré le match. Et le gardien du Sporting, il a massacré le match du Sporting.
Ouais, le pauvre.
L'OM en a profité, et c'est très bien. Tant mieux, les Marseillais se relancent. Mais derrière, comme je disais, cette grande victoire, parce qu'elle est importante, parce qu'elle te replace, même si tu es toujours dernier, malgré tout, il y a quand même encore deux matchs à jouer à l'extérieur. Hein. Il va falloir aller jouer à Lisbonne, à Francfort et recevoir Tottenham. Donc, le parcours est quand même pas simple dans ce qu'il reste à faire. Mais tu as un espoir. Tu as l'espoir. Et parfois, le foot, avec des scénars comme ce soir, te permet d'y croire. Mais dans le jeu, c'est incroyable de constater que tu as mis 4 buts sans rien proposer. En action offensive, en jeu, tu as été présent, tu as eu un bon état d'esprit, ça c'est sûr, mais l'adversaire, et notamment ce rôle capital que peut avoir un gardien dans un match, t'as quasi donné, t'as mis en tout cas sur les rails pour que t'ailles gagner ce match-là. Avec une boulette énorme, une deuxième boulette énorme, bon bah vas-y les gars, prenez le match. L'OM l'a pris, tant mieux, vraiment, je répète, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je fais assez de compliments à l'OM depuis le début de la saison pour ce soir être assez sévère quant à leurs prestations depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Là, il y a un état d'esprit qui était meilleur, mais contre Tottenham, l'état d'esprit, il était bon aussi. C'est contre Francfort qu'il était moyen, on a l'impression que mentalement, ils sont passés à côté. Là, ils ont bien réagi grâce aux boulettes du gardien. Encore faut-il, quand tu gagnes le jackpot, ramasser les pièces. Ils l'ont fait. mais on va en parler. Dans le jeu, je ne vois rien de rassurant dans cette victoire de l'OM, malheureusement. Et c'est un paradoxe parce que le score est quand même très large, c'est 4-1.
Lionel, t'es d'accord ?
Ah bah 200%, c'était mon premier point. Daniel l'a fort bien résumé. Tu gagnes sur les trois erreurs monumentales, monstrueuses du gardien. Bon, ça arrive. Le mec, il est passé. Il a fait sûrement les 25 minutes de sa vie les plus cauchemardesques pu avoir de sa carrière.
T'as déjà connu un moment aussi dingue d'absence
non,
totale.
Non, le pauvre.
Parce que là, c'est assez fou, là.
C'est dingue. Alors tu peux pas dire que c'est à cause des supporters. Tu peux pas dire que c'est, ou alors c'est peut-être parce qu'il y en avait pas. Alors lui, peut-être que d'habitude, et ben justement, il se transcende parce que il y a de l'hostilité. Alors,
Nico Villas disait qu'il avait été très bon l'année du titre du Sporting, ce gardien.
Mais bien sûr,
ans.
C'est un très très bon gardien.
Mais c'est le passage au travers. Tu sens pas que c'est la passoire, le mec tout. Non, là, tu sens le gars qui, bon, la première relance, ok, mais ce qu'il fait sur le carton rouge. Le gars, il comprend même pas qu'il est pas dans la surface.
Mais là, et en plus, il est allé se le chercher. C'est-à-dire qu'il loupe, il loupe son dégagement. Mais déjà, il les met carrément sur Guendouzi. Et en plus, derrière, il sort, tu sais pas. Non, il est à côté de ses pompes. Bon, après, ça a été provoqué aussi par les Marseillais. Fort bien provoqué parce qu'il y a eu une réaction. Il y a aussi un homme que j'ai cité tout à l'heure dans mes trois points, qui a eu un arrêt à faire. Mais il l'a fait quand il fallait, c'était à 1-0, c'est Paul Lopez, le face-à-face qui gagne, parce que ça se trouve, s'il gagne pas ce face-à-face, derrière, il n'y a pas toutes ces conneries.
C'est vrai. Ça, tu fais bien de le dire, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un moment très important de ce début de match.
C'est un moment hyper important.
Au moment où l'OM prend l'eau, mais un truc de fou.
Exactement, et là tu gardes la tête hors de l'eau, tu reprends confiance. Alors ça a été quand même, ils ont été emmenés par... pour moi, par un Sanchez qui a été extraordinaire de mental, de générosité, tout ça. Il est provoqué quand t'as un attaquant comme ça, tu vois, un peu à l'image de Cavani, tout ça. Moi, j'adore ces attaquants-là qui se défoncent, qui montrent l'aspect défensif, le pressing, qui va presser. Parce que, OK, le gardien fait l'erreur, mais l'autre, il va quand même chercher
le pressing. Un autre attaquant aurait peut-être pas fait ce pressing-là. T'as raison, c'est vrai.
Mais combien t'en as qui font des pressings? Au moins, t'en as un qui a compris que s'il y en a un qui est moins bon que les autres normalement au pied, c'est le gardien de but. Et quand dans 99% des pressings, juste pour finir, dans 99% des pressings, eh ben les attaquants arrêtent de presser sur le gardien.
Tout à fait.
Et ben Sanchez y est allé, lui, il a eu, ben voilà.
Julien, Julien, sur la prestation globale, t'es d'accord avec Daniel et Lionel?
Franchement, je vais vous dire une chose, je m'en fous de la prestation globale, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle, on peut pas en placer une. Vous nous demandez d'appeler, on peut même pas en placer une. On entend Daniel pendant 10 minutes, on entend Lionel pendant 10 minutes, et toi tu es là en train de demander est-ce qu'on peut causer. Putain, j'étais chaud pour parler du match justement.
Mais vas-y, regarde, c'est maintenant. Pourquoi t'énerves pas, Julien? T'es là tranquillement.
À un moment donné, n'invitez pas les gens à appeler si c'est pour les couper au bout de 2 minutes.
Mais vas-y, parle.
Mais non. Mais à un moment donné, vous le savez ce que je suis en train de dire. Vous invitez les gens à appeler, à réagir. Vous êtes en train de parler pendant 10 minutes. Parler entre vous, les gars.
Ben non, justement, en fait,
qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, t'as pas compris l'idée, c'est que t'es là, tu nous écoutes et après tu réponds.
Ah, d'accord. Donc j'appelle en fait, j'attends 10 minutes au téléphone pour parler et je dois attendre 10 minutes en plus quand j'ai parlé une minute.
Bon, sinon, t'aurais pas pu nous entendre.
C'est
de la radio libre ou c'est un débat entre Lionel Charbonnier?
Non, c'est justement, c'est de la radio.
Est-ce que
tu demandes ton avis sur ce qu'on a dit?
D'accord avec nous ou pas?
Je suis en désaccord parmi vous deux. Voilà. Sur ce que vous avez dit, je suis d'accord.
Alors, j'ai eu raison de plus pour le dire.
Voilà. Le Sporting, ils se sont fait massacrer. Oui, effectivement, sur la première occasion, ils marquent. Donc, effectivement, si tu parles de ce fait de jeu, en synthétisant, en disant, voilà, ils ont marqué un premier jeu, on a eu une chance inouïe, le gardien était arraché. Non, à un moment donné, l'effet de jeu, c'est pour nous aussi, à notre faveur. Le gardien qui se trouve, le carton rouge, ça joue aussi. Nous, Mbemba contre Tottenham, il s'est fait expulser. On n'a pas dit Tottenham, ils ont fait un bon match, machin. On n'a pas pris. Voilà. Pour une fois que les faits de jeu sont en notre faveur, on les prend. On a fait un gros match, on les a écrasés. 4-1, 3 points. Voilà. Moi, je suis content. Donc arrêtez de dire.
Ah, mais non, on est très content pour l'OM.
On les a écrasés.
Et moi, je vais te dire, alors bon, là, on peut peut-être faire le constat différent sur la performance, mais en tout cas, ce qui est important psychologiquement, c'est qu'il y a enfin une victoire aussi, parce qu'on l'a pas encore dit, mais enfin, là. Non,
mais voilà, la réaction, surtout, la réaction 1-0 quand tu perds comme ça, c'est génial.
Maintenant, je suis absolument pas du tout d'accord avec l'auditeur. Il a le droit de penser qu'il les a écrasés. Je pense qu'il devait être dans les petits fours en loge, confortablement installés, mais il a écrasé personne. Il a écrasé personne. Il a vraiment écrasé personne. Personne. Vraiment.
Ah, d'accord.
Naples, ils ont écrasé l'Ajax ce soir. Naples, ils ont écrasé l'Ajax. Si tu revois le match, Naples, ils ont écrasé l'Ajax. Et l'Inter a battu ce soir le Barça sans vraiment les écraser. Mais vraiment sans les écraser. Mais ils ont gagné. Mais je pense que s'il y a match nul, s'il y a un arbitrage un peu différent, je pense que le Barça repart avec un petit peu plus. Le football, ça n'est pas qu'une affaire de résultats. C'est pour ça que la phase de poule, elle comporte 6 matchs. Que pour l'instant, l'OM est dernier après 3 matchs. Que j'aimerais bien, moi, franchement, pour notre football, qu'il soit dans les deux, mais qu'il faudra, à un moment, réussir un match complet. Je suis pas sûr que sur 6 matchs, tu en gagneras 3 en jouant comme ce soir, c'est-à-dire en ne proposant pratiquement aucune action offensive. Parce que des occasions, t'en as très peu par rapport aux 4 buts. Donc ça s'appelle une réussite maximale avec un adversaire qui t'offre par le biais de faits de jeu un résultat. C'est juste une analyse objective. Après, il y a parfois tu prends, des fois tu prends pas. Comme tu l'as dit, ça t'as raison. Parfois les faits de jeu, ben faut savoir les prendre. Mais ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu gagnes le jackpot. Encore faut-il pas oublier de ramasser les pièces. Les pièces, tu les as prises, elles sont dans ta poche. Tant mieux. Mais il faut être assez lucide. Pour regarder ça d'un petit peu plus près, je pense que techniquement, tactiquement, le Sporting, même sur la deuxième période, quand ils sont en infériorité numérique, dans ce qu'ils savent faire avec le ballon, c'est mieux que l'OM, même à 10 contre 11.
Julien, tu veux ajouter quelque chose?
On retiendra que voilà, le Sporting c'était mieux que l'OM
Après on te pose des questions, on essaye de dialoguer avec toi et puis tu veux pas. Là t'es vraiment de mauvaise foi, je suis désolé. Parce que là moi j'essaye de te poser des questions mais tu veux pas répondre.
Bon, on va
mais moi je veux bien
avancer.
Qu'il réponde, hein. Moi je veux bien parler avec lui, hein.
Il est là Julien, il peut répondre.
Tu as craqué, tu juges quelqu'un parce que j'ai dit que j'ai eu la chance effectivement d'assister à ce match. Tu caricatures la personne en disant « Ouais, il était tranquille, il mangeait ses petits fours, sa petite coupe de champagne. » Mais qu'est-ce que tu en sais ?
Oh là là, on peut pas rigoler, Julien, t'es stressé quand même.
C'est incroyable,
comme t'es stressé. On rigole quand on dit « En loge, t'es les petits fours. » Ça va, c'est
Julien, il est contrarié.
Non, mais je suis pas insulté. Julien, je voudrais poser une question à Julien.
Je
ne
suis pas insulté parce que j'ai fait une blague. Bon,
Julien, avec du recul, sans s'énerver, sans rien, est-ce que tu penses qu'une victoire sur 3 faits de jeu que toi t'as nommé, que t'as dit, c'est toi qui as dit que c'était 3 faits de jeu et t'as parfaitement raison, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour continuer sans trop proposer de jeu pour les prochains matchs, pour continuer à gagner en Champions League?
Avec Lionel, ce que tu as vu ce soir, la presse en général attendait simplement que Marseille échoue ce soir pour dire encore une fois on est dégueulasse en Europe. Résultat des courses, c'est un match à huis clos.
Mais c'est qui la presse qui attendait, Julien?
Mais comme d'habitude,
donne des noms, des exemples.
De vos émissions, comme la plupart de vos émissions, pour pas la nommer, par exemple, tu prends le Moscato Show, je suis pas un auditeur fidèle de cette émission, mais c'est toujours pareil avec leurs questions à la con. Est-ce que c'est plus probable que le Brésil gagne la Coupe du Monde ou est-ce que Marseille finisse avec 0 point en Ligue des Champions?
Alors Julien, je vais te répondre. Alors déjà.
Là, il y a un problème de premier degré.
Alors déjà la base. Déjà, oui. Quand tu n'aimes pas une émission et tout, déjà, le mieux, c'est de zapper. Déjà, tu commences par ça.
Tout ça, c'est la faute d'Adrien Aigouin.
Deuxièmement, si tu n'as pas compris que c'était une émission où il y avait beaucoup de dérision et de second degré, t'as pas compris le principe de l'émission. Troisième point, une émission où l'intervenant le plus régulier, en dehors de Vincent, c'est Eric. Je pense qu'en matière de Marseillais, de supporters de l'OM, il a quand même deux trois atouts en dehors de l'analyse foot, mais dans l'émission de Vincent, il y a quand même beaucoup de blagues de second degré. C'est la nature même de l'émission. C'est un show. Bon, là, je pense que t'as un problème de compréhension sur l'émission. Maintenant, si tu veux m'en citer une autre où les gens attendaient une défaite de l'OM, moi, je veux bien que tu me dises qui attendait une défaite de l'OM.
Peut-être Julien Cazard.
Oui, enfin, moi, c'est, il est pas journaliste, quoi, c'est pas.
Non, mais lui, ça disait, va.
Lui, il, c'est pas de ça dont il parlait, Julien. Donc, j'aimerais savoir qui attendait une défaite de l'OM ce soir.
Bon, en tout cas, pas nous.
Je comprends pas cette victimisation. Mais je comprends pas pourquoi il est contrarié, en fait.
Bon, allez, avançons.
Parce qu'on l'a pas laissé parler.
On a plein de choses à faire. Ah. Et la preuve qu'on laisse parler les gens, c'est que justement, on l'a pas coupé quand il se plaignait qu'on le laissait pas parler. Voilà. Donc. Vous en faites pas si vous appelez.
On comprend pas pourquoi il est fâché. Vraiment, je comprends pas.
Vous pourrez nous appeler. Bon, on va continuer le débat.
Il a pas répondu à ma question.
Oui, mais là, le problème, c'est qu'on va tourner en rond, donc ça va devenir un dialogue de sourds qui n'a pas de sens. Dans une minute, on revient pour revenir sur ce match dans le détail. On aura Ibaz avec nous. On fera une évaluation, évidemment, ensemble. On reparlera de cette histoire de relance courte, Lionel, que tu as évoqué tout à l'heure également. En tout cas, voilà, l'OM a gagné ce soir et on est bien content pour le foot français et pour Marseille, bien sûr, qui l'emporte 4-1 face au Sporting. À tout de suite, l'After LH jusqu'à minuit et demi, avec les drôles de l'âme également tout à l'heure. Et puis tiens, si vous voulez voir notre studio et nos physiques de radio, connectez-vous sur Twitch, puisqu'on est également en direct sur Twitch lors de chaque soirée de Coupe d'Europe jusqu'à minuit et demi. Vous allez voir, on est très beau, enfin de loin. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot,
Gilbert Bribois,
Daniel Riolo et là, Lionel Charbonnier, là, 23h24, l'OM, évidemment, au programme de l'After ce soir, après sa victoire 4-1 face au Sporting. C'est relance courte. Est-ce que ce qu'a fait Alexis Sanchez soir...
Non, alors là, c'est pas une relance courte pour le coup.
Oui, là, bah,
il s'apprête à dégager, en plus.
Pardon, mais... Alors, ok, bah, prenons le deuxième but. Alors, c'est pas Alexis Sanchez, mais c'est une relance courte, quand même, qui est récupérée par les Marseillais. Et en fait, ça fait quand même... À peu près, je sais pas, 2454 matchs qu'on se dit, mais pourquoi les attaquants, ils vont pas franchement sur la relance courte, Lionel?
Toi, ouais, sur la passe au gardien.
Bah oui,
ouais,
donc
globalement, ça marche pas beaucoup. Il y a très,
c'est des cas, c'est des cas, mieux c'est des cas marquants, si mais qui n'arrivent pas. Il y a un pressing plus
précis. C'est des cas marquants, mais qui n'arrivent pas tant que ça. Et surtout, n'oublie pas un truc, c'est que si t'as un attaquant ou deux qui se jettent comme ça pour le faire, et qu'ils ne prennent pas le ballon, ça peut créer un décalage quand même derrière. Il faut faire attention à ça. Il faut pas tomber dans le piège de dire
dans ce cas-là,
c'est facile de faire ça.
On pourrait organiser le pressing autrement, tu vois, pour pas qu'il y ait ce décalage et qu'il y en ait un.
Mais le but,
comme Alexis,
il est là. Le but, il est là.
Dans, on va dire
ce qui est, on va simplifier pour schématiser, faire simple. L'idée Guardiola, quoi, bon, qui est faite par plein d'autres gens, mais on va dire ça pour faire simple.
Oui, il y a un suivi
c'est
général.
Justement. Que les attaquants et le bloc montent haut pour essayer de presser, parce que si techniquement t'es assez habile pour réussir la sortie, derrière tu peux créer des gros boulevards. Et c'est pour ça aussi que certains entraîneurs essayent de dire n'y allez pas trop, parce que ça peut nous emmerder derrière si les mecs sont forts techniquement. Donc tu vois, le piège il peut être des deux côtés finalement.
Mais là on est en train d'avoir cette réflexion, je suis d'accord avec toi sur le raisonnement, il y a pas de souci, mais on est en train n'y aller pas parce que le mec s'il est fort techniquement, on va se prendre un bouillon, c'est-à-dire que le mec qui est supposé le moins fort techniquement au pied.
C'est pour ça qu'il cherche des gardiens forts.
On est en train de dire s'il est fort techniquement. Ouais, mais enfin avant tout quand même, s'il y en a un qui est vraiment dans une zone à gros risque et que c'est non. Là qu'il faut faire plutôt que sur une touche, le vrai pressing est bien l'organisé. Pour moi, c'est sur le gardien de but.
Mais je vois bien Lionel, tu sais, c'est pour ça que la recherche du gardien qui s'est joué au pied, elle est primordiale désormais.
Ouais, moi je l'ai vécu plein de fois où j'avais eu des ballons en retrait, alors pas trop à Auxerre parce qu'on en faisait pas, mais par exemple chez les Rangers où j'étais mon premier match, je me suis cru numéro 10. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent pas de jouer avec moi. Bah, je dis bah OK, on va jouer. Mais je te jure, j'ai eu des mecs qui arrêtaient leur pressing au moment où des fois je me disais putain je suis dans la merde et l'autre hop il arrête son pressing, ah bah tout va bien. Et si l'attaquant avait continué son pressing, je peux te dire j'aurais été pas mal de fois dans la mouise, mais juste par cette peur là ça m'a ouvert des possibilités de relance incroyables et je te promets, mais et c'est pour ça qu'après quand j'ai entraîné, je disais mais allez sur le gardien de toute façon tu fais quoi, au pire il balance.
Bon, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui font ça, effectivement. Et en fait, il y a très peu d'alternance. C'est-à-dire que, est-ce que la bonne solution, c'est pas d'alterner relance courte et longue, et de surprendre?
Ils essayent. Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans.
Les équipes qui font relance courte tout le temps.
C'est que, non, tu sais ce qui m'énerve le plus, moi, c'est que j'ai l'impression que tu donnes la balle au gardien parce qu'il y a que lui qui est capable de jouer long. C'est-à-dire que tu prends un risque supplémentaire devant ton but, à 3 mètres du but, pour balancer la balle. Mais le prend pas l'arrière latéral qui va donner, par exemple, la balle au gardien. Il est pas capable de faire une relance longue à la place du gardien et de gagner un temps et pas prendre ce risque. Ça, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a que les gardiens. Ah bah, faut relancer long. Bah, vas-y, toi, fous un pétron là-bas.
Pour avancer un petit peu, parce qu'on est d'accord, Lionel, je suis d'accord avec toi là-dessus, bien sûr. Ce qu'il y a dans cette action qui est positif et qui finalement rejaillit, tu l'as un peu dit tout à l'heure, sur tout l'OM, et c'est le point positif de la soirée, parce qu'une fois qu'on a dit, voilà, une fois qu'on a dit qu'on n'est pas tellement trop satisfait de la prestation ensemble, derrière cette victoire qui est évidemment très très importante, il y a un mec qui s'appelle Alexis Sanchez qui donne du caractère à cette équipe, qui donne une forme d'âme à cette équipe, parce qu'après tout, rien ne dit, mais rien n'oblige à gagner un match en étant supérieur techniquement, tactiquement. Il y a d'autres manières parfois de gagner un match. L'OM l'a fait ce soir. Il y a quand même des joueurs qui ont affiché. Guendouzi, on le sait, c'est un mec qui a beaucoup de caractère. Globalement, l'état d'esprit de l'équipe est positif et il l'a été deux fois sur trois dans cette Ligue des Champions. Et toi, tu le dis souvent, en Coupe d'Europe, c'est déjà bien quand tu as le caractère. Après, tu peux avoir des faiblesses, mais il y a des campagnes récentes de l'OM en Ligue des Champions où ils échouaient sur tous les plans. Là, j'ai presque envie de dire peu importe, parce que je pense qu'il reste trois matchs et je crois pas que l'OM n'affichera pas cet état d'esprit, parce que elle a un bon état d'esprit et Tudor réussit à donner ça, et il y a des joueurs qui ont du caractère dans cette équipe. C'est déjà un point positif. Je sais pas ce qui se passera à Lisbonne dans une semaine. Je vois le Sporting plus fort, mais peut-être ils me feront mentir, les Marseillais. Mais Alexis Sanchez, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, c'est vachement important pour une équipe. Ça tire une équipe vers le haut. Harit a fait un très bon match aussi, et c'est bien d'avoir un mec comme Sanchez qui te parle, qui t'oriente. Et globalement, les Marseillais, pris individuellement, tu peux pas dire qu'il y en a un qui a été mauvais.
Exactement.
Tu peux pas dire qu'il y en a un qui a pas répondu présent. Ils ont tous été bons. Mais paradoxalement, le jeu collectif, je l'ai pas trouvé terrible, mais tous, ils ont au moins répondu présent en faisant chacun dans leur style un bon match. Après, t'avais des erreurs de passe, la passe pas donnée dans le bon tempo, le ballon qui rebondit, tu sais, un peu 3-4 fois avant d'arriver dans les pieds de l'autre, tu dis, oh, fais une passe sèche, bordel, mais une passe un peu comme il faut. Il y a plein de petits défauts comme ça, de petites choses pas très jolies. Mais globalement, t'as juste envie de leur taper sur l'épaule à la fin, dire c'est bien les gars, vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est bien.
Ouais, dans l'état d'esprit, il y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est paradoxal, je suis encore d'accord avec toi. C'est ce que je disais sur mon deuxième point, parce que tu les prends individuellement. Bon, moi, j'ai surtout aimé Sanchez, parce pour tout ce que t'as dit. En deux, Harit aussi, ou un et deux, ou deux et un, comme tu veux, parce que Harit, j'ai trouvé exceptionnel. Harit, l'association aussi d'Harit avec Nuno Tavares sur le côté gauche, je la trouve, pour moi, ça pourrait devenir, ou ça doit devenir, un incontournable.
Tavares, c'est typiquement le joueur on aime bien, mais on a envie de lui dire, Lionel, t'es d'accord, putain, fais le tri un peu dans ton jeu, quoi. Passe le tapis un peu dans ton jeu, il y a des choses à éliminer quand même.
Tu sais pourquoi on dit ça? Parce que, et c'est là où l'OM a pêché, c'est parce que comme il joue très haut et qu'il arrive à la faire soit l'avant-dernière passe, soit la dernière passe, et c'est là où l'OM a pêché beaucoup, je trouve, ce soir, c'était dans la dernière ou l'avant-dernière passe, voire même la finition. Et donc lui qui joue très haut, on a envie de lui dire, évite de faire ce dribble-là, vas-y direct, et pur, ce que tu viens de dire.
C'est ça.
Mais parce qu'il est dans cette zone-là, mais il y a eu beaucoup de joueurs dans cette zone-là aujourd'hui, qui moi m'ont déçu, parce que Alexis Sanchez a fait, je ne les ai pas comptés, mais je le regardais, mais il arrêtait pas de faire les efforts. Il était tout le temps en train de demander le ballon.
C'est limite presque trop, parce qu'après il perd un peu de lucidité en phase offensive, quoi.
Exactement.
Tellement quand ils ont le ballon, je veux dire.
Qu'il fasse du jeu sans ballon, qu'on se serve de ses courses pour du jeu sans ballon et jouer d'un mec, par exemple, il emmène deux défenseurs sur lui, ça libère un mec qui vient dans son dos, qu'on s'en serve. Pas de souci, mais quand on se sert ni de son appel, ni de l'appel qu'il a laissé, enfin l'espace libre qu'il a laissé dans le dos pour le mec qui venait de l'autre côté, ça m'embête quelque peu. Et c'est là où j'étais, et je trouve que c'est paradoxal, parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de, on va pas revenir sur l'état d'esprit et tout ça, beaucoup de trucs qui vont bien, mais collectivement, on se sert pas de tout ça. Et il y a quelque chose qui me, moi, ça me gêne aujourd'hui et ça me fait peur pour la suite parce que je vois pas, j'ai pas vu quelque chose net. En plus, t'es à 11 contre 10 et tu l'as dit, Daniel, je crois tout à l'heure, deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, tu prends un bouillon à 11 contre 10. Hein. Alors, pendant 10 minutes, c'était terrible.
Les gars, nouvelle pause et ensuite on accueille Ibaz au 32-16. Il y a également Youssef qui veut parler de Tudor et puis on entendra Guendouzi, on entendra Harit, on entendra Igor Tudor dans quelques minutes. L'évaluation également est à venir. L'OM est au programme dans l'after. Encore pendant une petite demi-heure et ensuite on parlera des autres matchs de la soirée et de l'Olympique Lyonnais. Sidney Govou, là, s'est lâché. Jean-Michel Aulas a parlé.
Mais Govou, il s'est lâché hier, on en a parlé hier. Il s'est pas relâché aujourd'hui.
Non, mais là, on n'avait pas tout hier. Il s'est quand même lâché fort là. On en parle d'ici minuit et demi.
Tu as dit la vérité quoi.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h35, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là et Ibaz nous rejoint. Merci d'avoir patienté, Ibaz, bonsoir.
On a gagné ou on n'a pas gagné?
Bah oui.
Non, parce que là, faut pas oublier d'être content, parce que tout à l'heure, le supporter, il n'était pas très content.
Oui, même, au départ, il était content.
Il était fâché, mais... on n'a pas trop compris.
Bon.
Non, mais il était content de la victoire quand même.
Ouais, non, mais moi, je suis très, très content de la victoire. Je voulais juste dire que ce match, pour moi, il était un peu irrationnel. Je vous explique pourquoi. Déjà, le match, il commence un quart d'heure en retard. Il n'y a pas de supporters.
Ouais.
En face de nous, on n'avait pas prévu, mais on avait un gardien de parking. Et Balerdi était titulaire. Alors, j'ai pas compris ça.
Et après, en plus, il marque.
Et après, il marque, oui. Ça, c'est le summum de l'irrationalité. Le gars, il marque un but. Alors moi, d'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Daniel tout à l'heure sur le niveau du Sporting qui était au-dessus de Marseille. En fait, je suis un peu partagé. Parce que je pense que Marseille, il ne faut pas oublier un truc, je pense que Marseille, en fait, c'est une équipe qui a moins de vécu. Et je pense que le Sporting est en avance sur nous, au niveau vécu, Ligue des Champions, et même niveau global. Parce que Marseille, en fait, pour moi, je pense que l'ère Longoria, actuellement, on est dans l'an 1 de l'ère Longoria. Et je pense que cette équipe-là, il faut qu'elle se développe année par année et qu'elle peut devenir beaucoup plus forte et beaucoup plus présente en Ligue des Champions. C'est juste que là, moi, comment j'ai ressenti le match, j'ai senti qu'il y avait de la fébrilité mentale. Et je pense que vraiment, ce pressing de Sanchez, il change tout. Il y a eu l'avant et l'après-pressing. Et ça, pour moi, ça change totalement le match. Voilà. Globalement, moi, je suis...
Ça, bon, j'aime bien. Ça, j'aime. Ouais, je suis assez d'accord
avec
ça.
C'est ce qu'on disait, ouais.
Ouais, je pense que concrètement, cette équipe de Marseille, elle va se développer sur les années. C'est juste que là, concrètement, là, il n'y a pas de vécu. En plus, Longoria, c'est sa première année. Amorine, je crois qu'il était là l'année dernière et puis il était en Ligue des Champions. Et ça, la Ligue des Champions, on ne va pas se mentir, il y a l'expérience qui joue. Le mental. Il n'y a pas la petite musique ce soir. Enfin, il y a la petite musique, mais il n'y a pas le public. Je pense que cette équipe, elle est fragile en réalité mentalement. Elle a beau être forte en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, elle ne monte pas les muscles.
Oui, tu veux dire,
elle
sait pas où elle est et elle a pas de référence, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou non.
Exact, elle a pas de référence.
Elle entend partout que en Ligue des Champions, c'est trop compliqué pour elle. Elle a pas envie de passer pour l'invité surprise.
Et
il y a une petite forme de pression comme ça qui peut effectivement peut-être s'emparer d'elle. Ce résultat va libérer l'équipe pour la semaine prochaine. Je continue de penser qu'a priori ça peut quand même être compliqué à Lisbonne.
Et n'oubliez pas, je pense que les médias, alors je sais pas, les médias sont pas, enfin c'est pas eux les responsables, mais le fait de parler tous les jours des défaites, du nombre de défaites, je suis sûr que les supporters de, enfin, les joueurs de l'OM, ils les entendent. Ils
bien
entendent
sûr,
qu'ils sont sur
vrai.
Une série hyper négative.
Ah oui, non, mais ça oui.
C'est ils vrai, entendent, ouais, 15 défaites, 16 défaites, record.
Mais ça fait partie vrai, des trucs à vrai. Gérer quand t'es professionnel, hein, d'entendre.
Ben, enfin, ce serait 16 victoires, 17 victoires, je pense que tout le monde le dirait aussi. Tu vois ce que
non,
je veux
non,
dire?
Mais je dis pas
et, que et tu sais que ça aurait, et tu sais que ça aurait, et tu sais que ça aurait des effets qui peuvent être tout aussi problématique quand tu entends à contrario autour du PSG qui a des fans qui sont beaucoup plus indulgents que ceux de l'OM avec l'OM sans arrêt c'est génial, c'est fantastique, au moment de la phase de poule ils vont tout écraser, ils ont la meilleure attaque du monde, Messi va redevenir le meilleur joueur du monde, blablabla bla, 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 à longueur de temps, et qu'au printemps 8 fois sur 10 tu prends une porte dans la tronche, ça peut avoir le même effet. C'est pour ça que nous à chaque fois on essaye avec modestie ou non, d'ailleurs, il faut bien l'avouer. On essaye juste d'être lucide, quoi, de pas trop s'emballer, de pas trop enfoncer, de juste regarder ce qui se passe finalement, tu vois.
Non, mais c'est normal parce qu'après on juge à l'instant T, on va pas juger sur le futur, sur ce qu'elle peut devenir. C'est juste que ce soir, moi, je suis d'accord que Bon, on n'a pas écrasé. Moi, j'ai pas senti qu'on avait écrasé le Sporting. J'ai senti qu'on avait marqué quand il fallait et qu'on avait piqué quand il fallait, qu'on a eu un peu de réussite. Je pense que vraiment le gardien, il nous a beaucoup aidé.
Et aussi, il y a un truc qu'on a, sur lequel
on a été
chercher
cette réussite. Elle a été cherchée cette réussite.
Il y a un truc sur lequel on n'a pas encore insisté, c'est la performance de certains joueurs qui peut-être ce soir aussi se sont libérés et derrière vont enchaîner. On espère pour eux.
On ne parlait pas de Bellardi, s'il vous plaît.
Si, on a parlé. On a parlé
de Bellardi, par exemple.
Oui, mais regardez, si vous vous arrêtez au cas d'Ardi.
Non, pas de
Bellardi.
Non, vous vous arrêtez au cas. Non, mais Bellardi met un but à un moment très, très important. Attention. C'est un gars qui est extrêmement critiqué. Il y a des gens, enfin, comment dire, à l'OM, ça tourne. Donc, on n'est pas dans des statuts qui sont figés avec des joueurs qui ont une grosse. C'est pas qu'ils ont pas confiance en eux, mais où on sait que c'est les tauliers. Harit, quand il joue, bon, il sait que grosso modo, il a mis Payet sur le banc. Mine de rien, il faut pouvoir le supporter, ce truc-là. Tu vois, ok, on a bien compris que depuis le début de la saison, Tudor ne fait pas confiance à Payet. Il a pas pour autant à 100% installé Harit comme titulaire, parce que Harit ne l'a pas toujours été. Et là, ce soir, il fait un gros match. Est-ce que ça veut dire j'ai gagné ma place comme un joueur offensif majeur de cette équipe? Parce qu'on va dire qu'il y a Alexis Sanchez plus 2 pour l'instant, un coup de Gerson, un coup 1. Est-ce que maintenant c'est Alexis Sanchez, Harit plus 1? Tu vois, les joueurs ont également besoin de ça, de sentir que l'entraîneur fait confiance et que, en gros, t'acquiers un nouveau statut. Bah, peut-être qu'Harit, ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien, le match qu'il fait ce soir, et que il pourra maintenir un niveau de performance élevé. Et il y a des joueurs à l'OM qui ont besoin de ça, qui ont besoin de renouveler des bonnes performances. Un mec comme Balerdi, il est beaucoup critiqué. Ce soir, ça peut lui faire beaucoup de bien, parce qu'il sait qu'il y a une concurrence rude en charnière centrale. Alors, ils sont beaucoup pour ces postes-là.
Je vous propose d'écouter quelques réactions, les gars. Tout à l'heure, Ibaz nous disait, match, je dirais un peu irrationnel. Tudor a expliqué pourquoi il était très énervé avant le match. Là, on écoute.
J'étais contrarié parce que nous étions déjà sortis en pensant que le match débuterait à 18h55. Pendant l'échauffement, quelqu'un est finalement venu nous voir pour nous dire que ça avait changé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Ils doivent s'en tenir à ce qu'ils nous ont dit avant. Après, nous sommes ressortis à 19h. Eux se sont encore fait attendre une fois de plus. Je me suis un peu énervé pour réveiller mes joueurs.
Ah, pas mal la stratégie.
Il a fait exprès. Il a fait exprès.
Mais il a fait que ça. Il a fait que ça. Il a eu, je trouve, son attitude super. Parce que je l'ai vu aussi se mélanger aux joueurs. Il est allé voir les joueurs qui étaient groupe par groupe. Il est allé leur parler. Il est allé pour pas qu'ils perdent la concentration.
Ça a pas marché. Ils ont pris un but après 50 secondes.
Ouais, bah après ils ont réagi. Oui. Donc peut-être que la réaction a fait aussi que peut-être qu'ils ont réagi en disant derrière tu l'entends et là on l'a parfaitement entendu parce qu'il y avait pas de tous les supporters malheureusement au Vélodrome, mais t'entendais tous les pressings. Normalement un pressing, il est pas décidé par l'entraîneur. Normalement, il est décidé par l'entraîneur avant à l'entraînement, pendant que quand tel joueur aura la balle à tel endroit, toi tu bouges là, ils emmène le ballon là, toc, gros pressing, et puis voilà comment c'est décidé. Mais là, c'était lui. Il leur disait d'avancer, il gueulait. C'était le vrai chef d'orchestre. Il a eu une vraie attitude du début à la fin. Ah mais oui, mais même dans ses choix, je sais pas ce qu'en pense Ibaz, mais moi dans ses choix de début de match, j'ai trouvé ça très bien, faire reculer Guendouzi faire un peu son box to box comme il le fait là actuellement contre cette équipe là, fallait aller chercher la victoire, ça mettait ça titulariser Harit avec et faire le doublon avec je suis en train de chercher son nom, Nuno Tavares. Je trouve ça très bien. C'est quelque chose qui est en train de s'installer. Peut-être qu'il va moins tergiverser. Peut-être qu'il va donner plus de schémas qui vont se répéter parce que les joueurs vont moins changer. Donc ça, moi pour l'instant, aujourd'hui, composition, attitude de Tudor, personnellement rien à reprocher.
Moi j'ai juste un petit truc à lui reprocher, c'est que je comprends pas. Alors, j'ai pas un souci particulier avec Balerdi, mais je comprends pas pourquoi, en fait, il le met dans la défense à 3 à gauche, parce qu'il va pas assez vite et il a beaucoup de mal, en fait, quand il y a des ballons en profondeur. Moi, je le ferais jouer dans l'axe. Parce que c'est pas un joueur pour
et
jouer.
Je crois que c'est ce qu'il préférerait lui-même.
Je pense qu'il serait plus dans l'axe.
Ouais, je pense qu'il devrait être dans l'axe. Et j'ai pas compris, puisque justement, à Angers, il n'a pas fait un mauvais match et il était dans l'axe. Et là, le match d'après, il le met à la place de Gigot.
Parce que au milieu, ça fait un peu patron et qu'il a moins l'allure de patron que.
Moi, je pense que si Gigot est là, Balerdi est sur le banc. Et tu aurais eu.
Mais il était là, Gigot.
Gigot, il est rentré à la place de Bailly, non?
Oui, mais
il a remplacé Bailly, non?
Oui, mais Gigot, il revient.
C'est en gros, c'est Bailly qui est censé avoir le rôle du patron.
Bah ouais, mais là, il l'a pas mis à ce poste-là.
En tout cas, sur Bailly.
Tiens, un qu'on n'a pas cité.
Oui.
Je sais pas ce que t'en penses, Ibaz, mais un qu'on n'a pas cité que j'ai trouvé très très bon, franchement, défensivement, offensivement, et de par son, c'est Mbemba.
Chancel.
Il est là, lui.
Franchement, je l'ai trouvé excellent.
Moi, je pense qu'il peut jouer numéro 9 maintenant. Crochet,
en tout cas, il y en a des centraux à l'OM. Hein.
Non, mais Chancel Mbemba, pour l'instant, franchement, c'est.
C'est bien, c'est vrai.
Ibaz, merci beaucoup.
En tout cas, je viendrai un jour participer à l'émission en studio, vous allez voir.
Ah bah, tu es le bienvenu. D'ailleurs, tiens, vous savez qu'on est en train de préparer la Coupe du Monde activement. Et vous allez avoir quelques petites surprises sympas pendant la Coupe du Monde. On vous permettra de venir en studio pour participer à l'after.
Pendant la Coupe du Monde.
Pendant la Coupe du Monde.
On est au Qatar.
Mais vous faites pas l'after au Qatar.
Il y a des surprises.
Préviens-moi quand même, comme je suis pas au courant.
Prévu que tu as vu Qatar.
Parce que si la surprise, c'est également pour moi. Comment ça?
Ah oui, tu vas au Qatar.
Oui, je sais. Mais tu me dis qu'il y a des surprises avec des gens ici. Mais s'ils viennent ici, que nous on n'est pas là.
T'inquiète pas, tu comprendras.
Ah non, mais vous serez là comme l'autre là. Comment ça s'appelle là, avec
Tu vois, comme Mélenchon avec des hologrammes.
Comme Mélenchon.
Ouais, bah, ça
sera si bien la première fois que Daniel fera un truc comme Mélenchon.
Si c'est pour faire des analogies de ce genre-là, vous comptez pas sur moi.
Et donc, vous pourrez venir en studio.
Il y a des gens qui peuvent être assimilés, merci.
Je vous en saurai plus dans quelques jours. Voilà, la Coupe du Monde, en tout cas, c'est
ton avatar, Daniel. Oula. Imagine l'avatar que tu vas avoir.
Dans un instant, on entendra Guendouzi et on accueillera Youssef qui veut parler lui aussi de Tudor. On fera l'évaluation ensemble pour conclure sur l'OM avant de passer aux autres matchs. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Lionel Charbonnier et Daniel Riolo. Les Drôles de l'âme arrivent d'ici un petit quart d'heure maintenant pour les autres matchs de la soirée. Et puis il y aura l'OL également au programme. Je rappelle que l'after, les soirs de Coupe d'Europe, est également donc sur Twitch, mais aussi rediffusé ensuite. Hein. Si vous êtes par exemple en voiture, là que vous avez un petit trajet à faire cette nuit, vous avez raté le début, vous aurez le début de l'after tout à l'heure à minuit et demi. Voilà, ça passe en boucle. C'est pratique. Et puis Youssef est là. Youssef au 32-16, bonsoir.
Bonsoir l'after, bonsoir tout le monde. Comment ça va, bonsoir, les gars?
Youssef. Ça va et toi? Youssef, je te propose d'écouter Guendouzi. Il est ravi évidemment de l'issue de ce match. C'est parti.
Le soldat.
Très heureux de la victoire ce soir. Je trouve qu'elle est entièrement méritée malgré qu'on ait mal débuté le match. Mais voilà, on a appliqué tout ce qu'on avait travaillé à l'entraînement et je trouve qu'on a fait une belle performance dans l'ensemble ce soir. Ils ont très bien joué leur première situation. On savait qu'ils étaient très dangereux quand ils jouaient entre eux, notamment les trois joueurs de devant. Donc voilà, on s'est fait avoir un peu bêtement sur le premier but. Mais voilà, après on a très bien rectifié ça. Et voilà, après c'est compliqué parce qu'on devait commencer le match à 18h45. On avait fini l'échauffement depuis un petit moment, mais c'est pas une excuse. On est mal rentré dans le match, mais après ça, voilà, ils ont marqué le premier but. On a su répondre présent par la suite. Donc c'est de très bon augure pour la suite.
Ah, il va rentrer dans la tribu des voilà-voilà de Julien Cazard. Il a mis en place cette tribu. Youssef, justement sur le premier but, Jordan Vertu n'était pas dans le match. Hein, parce que c'est lui, là, il doit y aller sur Trincao.
Ah bah, Balerdi aussi.
Il ne lui demande même pas son ticket.
Exactement. Mais Balerdi doit l'empêcher de rentrer dès le départ. Il doit lui couper un peu cette envie de rentrer.
Ils se sont mis à deux. Il y a deux contrôleurs RATP, mais ils n'ont pas demandé les tickets.
Et après, Vertu a mis son grain de sel là-dedans.
Gilbert, si tu me le permets, si l'équipe me le permet, moi j'aimerais prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce match et me focus un petit peu sur Igor Tudor, sur le coach de l'OM.
Vas-y.
On connaît tous les péripéties qu'il a connues à son arrivée lors de l'Olympique de Marseille. Sifflé deux fois consécutivement au Vélodrome avant même d'avoir joué et de faire ses preuves suite à des matchs de préparation. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais citer Daniel Riolo, avec qui je ne suis pas forcément tout le temps d'accord, mais qui ne cesse de mettre en valeur, je crois à juste titre, l'état d'esprit de l'OM. Et pour moi, l'état d'esprit de l'OM, c'est la meilleure recrue cet été, en fait. Instaurée et mise en place par Longoria à travers ce coach-là. Et en fait, on a beaucoup critiqué Tudor. Et y compris moi, hein, j'étais un petit peu anxieux cet été. En fait, je crois que c'est simplement le gars qu'il faut écouter. La première fois, permettez-moi de vous donner un exemple, la première fois qu'il a positionné Guendouzi très haut sur le terrain, juste derrière l'attaquant, il a juste cité ça en conférence de presse en expliquant que Guendouzi avait fait une formidable semaine d'entraînement. Et c'était trop compliqué pour lui de le laisser sur le banc, donc il a fait jouer un poste qui n'était pas le sien. Parce que le mec s'est défoncé. Humilité, travail, intensité, solidarité. C'est des nouvelles valeurs qu'on met en place à l'OM. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très pérenne. Ça a été voulu par Longoria. Longoria a baqué, il a défendu son coach quand des joueurs sont montés au créneau. Et je crois que ça, c'est ce qui va permettre de faire entrer l'OM dans un... dans un nouveau cycle, voilà, quelques années, je l'espère, de gloire et de résultats.
Mais quand bien même, c'est surtout important, Youssef, ce que tu dis, c'est bon, tout ce que tu as dit est très juste, mais l'importance lorsque les joueurs montent au créneau et vont voir le directeur sportif ou le président ou qui tu veux, et que là, il y a une unité entre les deux, et que les joueurs se rendent compte que, oh, les mecs, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, sachez que l'entraîneur, il sera toujours là. Parce que s'il y a la moindre faille à ce moment-là, c'est fou. Foutu. Ton vestiaire, il est foutu.
Et Lionel, juste pour terminer.
Et là, ça n'a pas été le cas, et bravo de le souligner.
Mais oui, c'est important de le souligner parce que depuis 10-11 ans, au PSG, il y a des problèmes de culture d'entreprise, d'investissement, de valeur, de respect de l'institution. Et le fait de voir un jeune président comme Longoria vouloir mettre ça en place à l'OM, ça me rassure énormément parce qu'on sait que l'OM, c'est un club qui est capable du pire comme du meilleur. Donc au-delà de ce match, hein, et j'en suis ravi, vous en doutez. Je voulais revenir sur ce terme-là, l'état d'esprit que Daniel a beaucoup mis en valeur, et je suis d'accord avec lui. Et je pense que c'est quelque chose de formidable et sur lequel j'aimerais qu'on insiste davantage dans les médias. Je vous rappelle que c'est 23 points sur 27, 23 points en Ligue 1, une première victoire en Ligue 1 malgré un historique psychologique très compliqué. Donc les gars, waouh. Bravo Tudor, bravo Longoria.
Et ça, Youssef, j'arrête pas de le dire. Je crois que c'était encore. Dimanche ou lundi, je sais plus, avec des gens qui critiquaient l'OM et que je me suis agacé en disant mais attendez, mais il y a qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de plus à l'OM en ce moment?
On est presque à califourchon quand même sur le PSG presque.
Enfin, c'est pour ça, c'est pour ça que je suis très souvent positif sur ce qui se passe en ce moment là-bas.
Et tant mieux. Et il faudrait qu'il mette encore une autre équipe minimum.
Après moi, je t'assure, je veux bien tomber de l'armoire et j'en serais vraiment ravi s'il y avait une progression et encore plus de confiance dans le jeu et s'ils allaient gagner à Lisbonne. Là, ce soir, je te le dis, j'y crois pas, mais je suis prêt à être surpris. J'aimerais bien voir ça.
Une semaine encore à patienter, voir ce résultat-là. Mais
entre-temps, l'OM va battre Ajaccio. Donc va conforter encore sa place en championnat et c'est très bien, faut engranger des points. Et après parce que mine de rien, il y a quand même deux équipes qui ont 6 points. Non, Tottenham en a 7 maintenant. Le Sporting 6, Francfort 3.
Non, 4, il y a 0-0. Il y a
4 Francfort et 3 l'OM. Ils sont encore derniers, ça va pas encore être simple.
Il y a deux équipes à 4 points, Tottenham et l'Eintracht.
Tes deux confrontations là contre le Sporting et celle de
voilà, tu fais deux, t'as deux matchs, oui, pardon, t'as deux matchs à jouer à l'extérieur. Donc le parcours il est vraiment pas simple encore, même pour être troisième. Je te dis, moi je veux bien être surpris. J'ai envie d'être surpris.
Tu vas à Lisbonne à Francfort
que l'OM continue de nous surprendre.
Et notamment à travers des personnes peut-être qui jouent un peu moins comme Gerson ou Payet qui je crois vont finir par prendre le pli parce qu'ils auront envie de jouer et pas de plus.
23h54, le nom de Payet a été prononcé pour la première fois.
Non, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure.
Mais encore une fois, nous-mêmes supporters, on vit plutôt bien sa mise à l'écart temporaire et on le souhaite de revenir, on le souhaite de s'investir comme les autres. On n'oublie pas tous les services qu'il a portés, mais voilà, c'est un état d'esprit
qui marche sans lui, donc qu'est-ce que tu veux dire?
Non, pour le coup, on peut rien reprocher à Tudor.
C'est ce que je te dis, ça marche sans lui. Parcours parfait en championnat. En Ligue des Champions, tu t'es un peu relancé ce soir. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tout va bien.
Non, mais
on aime beaucoup Payet, mais la petite surcharge pondérale, Dimitri, si tu nous entends, on t'aime beaucoup. Voilà, un peu moins de féculents le soir et puis on est ensemble, quoi.
Mais ça fera partie, Youssef, de l'état d'esprit, c'est-à-dire que là, si l'OM va très loin et continue ses performances avec cet état d'esprit, il faudra absolument que les pseudo-remplaçants, parce que j'aime pas les appeler remplaçants, ceux qui vont être appelés dans le turnover, aient exactement le même état d'esprit. Et d'ailleurs, les titulaires sont toujours poussés par des mecs qui sont sur le banc, qui ont la banane, qui ont envie de jouer. Quand t'es titulaire et que tu vois un mec qui fait la gueule, tu te dis ça va être chaud parce que comment ça va se passer ce soir si jamais je me blesse ou quoi. Alors que si t'as des mecs qui sont sur le banc, les titulaires voient les mecs sur le banc avec la banane, l'envie de jouer, l'envie de la gagne et tout ça, là c'est tout ça qui se met et c'est cet état d'esprit qu'il faut garder et ça vient aussi des pseudo remplaçants.
Youssef, petite ouais. évaluation là. Je sais pas s'il y a un joueur peut-être qu'on n'a pas cité que t'as envie de citer. Bon, il y en a qu'on n'a pas cité du tout. Hein. On n'a pas parlé d'Under, par exemple. Alors le pauvre Klos, on n'a pas de nouvelles là pour l'instant concernant son mollet.
Ah, le Klos, mollet comme ça. Moi, je m'y connais en oui. mollet.
Vous en avez beaucoup parlé, messieurs, mais je crois qu'à Minarit, et vous allez me trouver relou pour rester là-dessus, mais moi j'adore son état d'esprit, la fierté qu'il a eue de rejoindre l'OM.
Comme du match ce soir, d'ailleurs.
Moi je pense qu'il a compris que là où il est, c'est une véritable opportunité de carrière pour lui, et qu'il fallait qu'il se défonce. Son discours est très volontaire en conférence de presse. Apparemment, il a une attitude plutôt réprochable en entraînement.
Ah bah tiens, écoute-le. Il parle du fait de jouer avec Alexis Sanchez. On écoute.
Let's go. C'est quelqu'un qui est très important pour nous. C'est un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense. Il bouge énormément, il presse énormément et ça nous facilite les choses. Voilà, quand on a un joueur de cette classe devant, c'est tout de suite plus facile, que ce soit pour combiner, comme sur la première action que j'ai. Voilà, il sent le football et c'est un plaisir pour moi qui a pu le voir jouer en étant plus petit de pouvoir. Jouer avec des grandes personnes du monde du football comme lui. Et ouais, je m'entends de mieux en mieux avec lui. Il y a des automatismes qui sont en train de se créer et c'est de bon augure pour la suite.
Voilà, concernant son entente avec Alexis Sanchez, arrête. C'est malin de sa part. C'est-à-dire, regardez, faites-moi jouer. En plus, j'adore jouer avec lui. Vous voyez ? Et en plus, ça marche.
Il est volontaire, il bosse. Il n'est pas médisant. Non, c'est un gars qui est plutôt formidable et c'est hyper rassurant, je crois, pour la suite. Et je pense vraiment, j'ai l'intime conviction que Gerson, Payet vont prendre le pli, qu'ils vont faire les efforts, qu'ils vont avoir une folle envie de jouer et qu'ils auront compris que c'est à l'entraînement que ça se passe et c'est que les week-ends ça se passe et qu'on ne se base pas sur des statuts mais sur de l'investissement.
Merci Youssef.
Merci à vous cette
présentation d'exposé de Youssef.
Merci, si je peux me permettre les gars, juste merci à Farid de m'avoir appris le foot, merci beaucoup à Sarah, à tous mes potes de la cellule que j'embrasse tous très fort parce que je les aime. Et merci
la cellule, tu veux dire, t'étais
la
pas en
cellule aux maguettes?
Non, la cellule, c'est un groupe d'amis que j'aime beaucoup et qui me soutient depuis toujours. Donc je les kiffe et merci à vous l'équipe pour l'accueil.
Parce que sinon, t'aurais cool. remercié Roland. Hein.
Non, pas forcément. Même si on a beaucoup de respect pour lui.
Attends, t'as appelé ça comment la prison? Je pense que t'as fait une petite boulette, Lionel.
Ouais, je vais. Oui.
J'ai vu quoi?
Je crois que t'as dit les maguettes, non?
J'ai dit les maguettes.
Oui, c'est un quartier à Lyon, le quartier de Louis quand il était petit. C'est les Baumettes, tu voulais dire.
Et les Baumettes. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand je le disais. C'est quand je le disais, je me suis dit, oh là.
Allez, salut Youssef.
Tu sais qu'on n'a pas
même Daniel, il va pas s'en apercevoir.
C'était il y a quelques jours.
Non, c'était il y a avant-hier. C'était le 2 octobre. L'anniversaire de Louis. C'est également les 15 ans de la disparition de Francis Borrelli. D'ailleurs, samedi soir au Parc des Princes,
ça me fait penser qu'il y a
un petit hommage pour les deux aurait été le bienvenu.
À Marseille, il y a eu une banderole pour les 1 an de la mort de Bernard Tapie.
Pour Bernard,
vous avez vu la sortie du fils de Bernard Tapie qui dit « Ni la ville ni le club ne font rien ». Il réclame une statue de Bernard Tapie, Laurent Tapie.
Je ne me prononcerai pas sur le sujet.
En général, les statues, on ne les demande pas. Elles doivent venir... naturellement, enfin voilà, c'est ce qu'elle
ne prononce pas sur ce sujet.
C'est la demande qu'a fait aujourd'hui Laurent Tapie. Il veut une statue. Alors en fait, il veut une statue qui partirait de la fameuse photo où on voit son père porté en triomphe par les joueurs en train de tenir la Ligue des Champions. Voilà, à suivre. Je ne sais pas si le club ou la ville vont le faire, mais enfin, voilà le message du fils de Bernard Tapie. 23h59, Lionel, merci beaucoup.
Ah, j'ai fini.
Bah, oui, c'est le principe pour la Ligue des Champions. On te laisse. Maintenant, on a les deux rondes de dames qui arrivent. Puisque toi, t'as pas vu tous les matchs, alors qu'eux, ils ont vu tous les matchs.
Ouais, j'ai regardé Naples, je peux te dire, enfin, un bout de Naples, je me suis régalé.
Ah ouais, c'était grand football de Naples, hein, vraiment là.
Ah ouais. Ouh. Puis c'est pas d'aujourd'hui.
Quel match.
Et bah, bonne soirée, les copains.
Salut Lionel, à bientôt.
Bonne soirée, ciao poulet.
Dans un instant, les drôles de dames et l'Olympique lyonnais au programme. Il est 23h59, l'after continue pendant encore 30 minutes.
RMC jusqu'à 12h30.
L'after foot. RMC jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit et 1 minute. Et l'after continue encore pendant une petite demi-heure avec les drôles de dames qui nous rejoignent. Attends, un petit jingle drôle de dames. On ne le met pas assez souvent, ce jingle drôle de dames, qui est toujours appréciable. Voilà. Paulo Breitner est avec nous. Paulo, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Julien Laurence est là également. Salut, Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Johan Crochet, évidemment. Johan, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Et Fred Hermel, salut Fredo.
Capicote un petit peu ce soir. Hola chicos.
Alors, je veux que chacun démarre avec son bilan. Genre Johan 2 sur 2, tu vois, je veux des chiffres.
Ah oui, bah ça y est, bah, comme l'Italie. Ah pour. Bah oui, voilà, bah, comme c'est l'Italie ce soir.
Je veux bien faire le bilan, Daniel.
Je veux entendre 2 sur 2, 0 sur 2, 1 sur 2. Je veux entendre. Je veux savoir qui sont les hommes qui nous parlent.
Zéro.
Oui, mais sur combien ?
Sur 2.
Ah bah voilà, faut le dire.
Oui, alors bah l'Italie.
Bah 2 sur 2, Daniel l'a déjà dit.
Voilà.
L'Angleterre.
Une victoire, un match nul pour moi, donc invaincu ce soir.
La petite valorisation.
Toujours.
Et Polo ?
1,5 sur 3, c'était ce qui était prévu.
Démarrons par le match de la poule de l'OM, si vous le voulez bien. Eintracht Francfort-Tottenham, qu'est-ce qu'il y a à redire ?
Il y a trois équipes qui jouaient ce soir.
Oui, ouais, je te dis, je suis en train de faire greffer un troisième œil, ça devient compliqué. Hein.
Ah oui, non, mais c'est rare. Normalement, il y a trois qui jouent le même soir, c'est peu fréquent.
Ben là encore, on avait le droit d'avoir le match à 18h45, mais lors de la deuxième journée, ils ont mis les trois en même temps, c'est assez compliqué. Mais bon.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match Francfort-Tottenham, Polo ?
Bah écoute, en fait, c'est un match. Bon, pour moi, j'ai vécu émotionnellement un très beau match, mais c'était pas un beau match techniquement parlant. Il y a beaucoup d'erreurs techniques des deux côtés, notamment du côté de Francfort. C'est, j'ai envie de dire que Tottenham était un peu meilleur en tout, était un peu meilleur partout. Mais tu sens en ce moment que Tottenham, c'est pas le grand Tottenham qu'on voudrait voir, etc. Et comme t'as une équipe en face qui, au niveau européen, bah ils ont quand même accroché quelques équipes, etc. De renom. Et ben le 0-0 à la fin de la rencontre et pas galvaudé. Alors tu peux toujours venir en première mi-temps en disant est-ce que Kane, ça a manqué de justesse que de Tottenham, non, est-ce que Son, s'il prend le cadre, ça fait but, si Kane était un peu mieux ce soir, ça fait but aussi. Moi ce que je vois, c'est que c'est pas un grand Tottenham et c'est un Francfort qui sait tenir ce genre de rencontre et j'ai presque eu un moment, je me suis même dit pendant un moment, ils vont en planter un dans les 10 dernières minutes, même si encore une fois, quand tu vois Tottenham, tu sens qu'ils sont plus forts que Francfort. Et c'est à mon avis, enfin je parle sous le contrôle de Jules, c'est un Tottenham à 80-85% qui est sans doute un peu en crise avec ce qui se passe avec Conte, la défaite contre Arsenal et tout ça. Mais moi je considère que c'est un bon point parce que c'était ce qui était prévu. Donc voilà, 0-0.
Julien, tu dis quoi ?
Ben, ils ont des regrets, ils ont beaucoup de regrets ce soir, parce que comme Polo l'a dit, surtout en première période, il y a les deux grosses occasions. La première sur le centre de Son, qui sent peut-être un tout petit peu trop fort, ou je sais pas ce que Kane fait, mais ça doit être un plat du pied, tranquille, pied droit pour Kane, il est devant le but. Et le ballon passe très vite devant lui, il l'effleure juste de la cuisse, et puis après il y a la frappe de Son aussi qui est hors cadre, qui doit être cadrée, peut-être même celle de Kane avant aussi, à l'entrée de la surface, qui est au ras du sol, qui doit être cadrée, qui est pas cadrée. En général, dans cette position-là, et Son et Kane, quand ils sont vraiment en confiance, en tout cas, ils ne ratent pas le cadre. Après, ça ne veut pas forcément dire but, mais ça ne rate pas le cadre. Et c'est vrai que ça, c'était décevant. Après, ils ne prennent pas de but, même si défensivement, il y a une ou deux frayeurs quand même sur la reprise de la volée de Knaf, par exemple. Il y a quelques situations un peu compliquées. Mais c'est un point qui ne les arrange pas trop. Même si c'est à l'extérieur, ils vont prendre le point. Et c'est un match qui a ressemblé un petit peu par moment à celui du Sporting où ils avaient perdu dans les dernières minutes. Là, au moins, ils n'ont pas perdu, mais ce n'est pas non plus quand même un point qui... quand tu vois comment le groupe est serré avec le Sporting avec 6 points, ensuite 4 et 4 pour Francfort et Tottenham et Marseille même avec 3 derrière maintenant, ça reste quand même vachement serré, donc c'est un point, voilà, ils le prennent, mais c'est pas non plus la meilleure des affaires qu'ils aient pu faire.
Effectivement, Sporting 6 points, Tottenham Francfort 4 et l'OM 3. Alors l'autre affiche du soir, c'était bien sûr Inter Milan Barcelone. Johan, je te donne la parole puisque c'est l'Inter qui a gagné. Est-ce que tu estimes cette victoire totalement logique ou alors est-ce que tu aimais quelques réserves ?
Ouh, logique, je ne suis pas certain.
Oui.
Disons que l'Inter a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, ça c'est clair. Après, on s'attendait évidemment à ce type de configuration de match où c'est le Barça qui a le ballon et où l'Inter défend. Honnêtement, ce soir, tu ne peux pas retenir grand-chose tactiquement, sur le plan du football, etc. Ce que tu vas retenir, c'est qu'ils ont retrouvé un état d'esprit qu'ils avaient un peu perdu, où depuis quelques semaines, les joueurs s'engueulaient sur le terrain, où quand il y en a un qui ratait quelque chose, il se faisait reprendre immédiatement par un coéquipier, où ils abandonnaient très rapidement quand il y a la moindre difficulté. Et ce soir, tu as vu tout l'inverse. Tu as vu, en fait, ce qui a fait la force de l'Inter depuis que Conte a un peu ramené cet état d'esprit à l'Inter et qui a été perdu là en ce début de saison. Donc, on va dire que c'est une victoire sur le plan du courage, de l'état d'esprit, de l'abnégation, mais ça c'est pas vraiment du football pur quoi. Mais sur le plan du terrain entre guillemets, à part dire qu'ils ont passé leur temps dans leurs 30 mètres et que Dzeko, en bon Samuel Eto'o, a fini les 5 dernières minutes en arrière-gauche. Bon, y a pas grand chose à retirer. Après, ce qui est très bien pour l'Inter, c'est que ce type de match-là contre un grand club, en montrant justement qu'avec l'état d'esprit, tu peux arriver à certaines choses, à résister, à, même quand tu es en difficulté physique, notamment parce qu'il y a toujours ce vrai problème-là, c'est peut-être le début d'une série pour l'Inter où ils vont se dire, bon, allez, on se remet dans le bon sens. C'était un peu le propos de Mkhitaryan à la fin du match, de Lautaro Martinez, en disant, à partir d'aujourd'hui, tout change. Donc on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir. Mais honnêtement, ils ont souffert énormément ce soir.
Je trouve peu enthousiaste pour ce qu'a fait l'Inter quand même, parce que
ils ont défendu quoi.
Oui, puis après.
Ouais, mais c'est quand même c'est une perf dans le sens où t'as un Barça qui est en pleine forme et un Inter qui était vraiment pas bien en ce moment, qui est même décevant depuis le début de la saison, qui est un peu même largué un peu au classement et qui fait un résultat un peu. Ah, vraiment toute proportion gardée, mais forcément Inter-Barça c'est tellement resté dans la légende le match de 2010 que dès que tu vois ces deux noms t'y penses. Et parfois, par moment ce soir, quand je les voyais un peu défendre un peu le cul par terre,
il y a des souvenirs
une ou deux fois remontent. J'ai eu un vague souvenir de ça. Évidemment ça n'a rien à voir, mais bon, forcément j'y ai repensé. Et en plus l'Inter a priori c'est pas une équipe qui est montée pour jouer comme ça, pour mettre des savates, pour jouer un peu à l'envers et tout, mais ce soir ils ont pas pu faire grand-chose de mieux.
Regarde le milieu de terrain aligné ce soir. Quand tu prends le milieu de terrain aligné ce soir, tu as Mkhitaryan, tu as Çalhanoğlu,
dans le rôle un peu de Brozovic.
Exactement, il n'y a pas de vrai 6, donc c'est pas un milieu de terrain qui est monté comme ça, mais c'est pas une question d'enthousiasme ou pas. La lecture, elle est claire du match. T'as énormément souffert, tu le refais 10 fois ce match-là, tu le perds 9. C'est très bien pour l'Inter, ce que je dis, c'est que ça peut amener une série, montrer que sur le plan de l'état d'esprit psychologique d'une équipe qui est au fond du trou, ils peuvent se servir de ce match-là pour entamer un nouveau cycle maintenant. Mais après, il faut être lucide aussi sur la performance de l'Inter. Et ils ont pas vu le ballon, quoi.
Non, mais c'était prévu. Mais j'imagine que c'était prévu. Ils ont joué le contre. Et ils ont souvent mis le Barça en danger en contre.
Pas tant que ça.
Il y a eu quand même deux, trois frayeurs parfois. Alors, le Barça a bien joué la ligne du hors-jeu justement pour éviter que ça soit plus grave que ça. Mais on sentait quand même la menace, quoi.
Bon, et Fredo, ce qu'on peut souligner aussi, ça arrive vraiment très très peu avec le Barça et le Real, mais ils se sont fait un peu fourrer par l'arbitrage. Ça fait pas de mal.
Alors,
ouais, je comprends pas la main là.
On va aborder le sujet. Comme on était sur le jeu, on va parler du jeu avant de parler de l'arbitrage.
Le gros problème
du Barça, ça a été le milieu de terrain, encore une fois. C'est-à-dire que le Barça de Xavi, il est a priori construit sur le milieu de terrain. Ce soir, c'est encore Pedri, Gavi et Busquets, et ça n'a pas fonctionné ce soir. On a vu le même Barça, on en parlait hier soir dans les Drôles de Dames. On a vu le même Barça qu'à Majorque ce samedi. Sauf que c'était Mallorca en face samedi, là il y avait quand même l'Inter, et sauf que Lewandowski dans la victoire 1-0 du Barça a fait un exploit personnel. Ce soir Lewandowski, il a été extrêmement bien pris par la défense de l'Inter. On l'a pas vu Lewandowski, il a essayé de faire des appels, il a essayé de se battre.
À un moment j'ai oublié qu'il était là.
Oui, alors il s'est battu, il a bougé, sauf qu'il a pas eu une seule occasion. Et si je dis pas de bêtises, c'est deux tirs cadrés pour le Barça ce soir. Les inquiétudes qui étaient nées de samedi soir à Majorque, on se disait, oui, mais bon, et j'étais le premier à le dire, le Barça, dès qu'il y a une coupure internationale, le temps que reviennent les internationaux, ils sont toujours du mal, etc. Sauf que là, ce soir, c'est inquiétant. En plus, la défense, la blessure d'Araujo, qui était pas là ce soir, la blessure de Jules Koundé, et ce soir, Christensen, le Barça vient de communiquer qu'il avait une grosse entorse à la cheville. Donc, c'est problématique pour les semaines qui viennent, et notamment le match aussi contre le Real dans une dizaine de jours, quoi. Donc, le Barça n'a pas bien joué ce soir. Moi, il y a un seul mec que j'ai vu à peu près dans le ton du côté du Barça, c'est Ousmane Dembélé. Parce que c'est, je sais pas si t'es d'accord, Johan, mais c'est le seul qui était un peu virevoltant, même s'il a fait de mauvais choix. mais le reste c'était pas.
Ouais, c'est ça, il a amené de la vitesse, mais en fait, ouais, il faisait un peu toujours mais, la même chose.
Oui, oui.
Le même
alors,
sens,
mais c'est ça.
Alors, le peu dangereux et.
Ouais, alors, la même chose, c'est ça. Ce soir, on a vu un Barça très prévisible, et comme il n'y avait pas de créativité, d'originalité dans la création au milieu de terrain, bah, automatiquement, le Barça a été assez plat. Et puis après, il faut quand même reconnaître que l'arbitrage n'a pas été favorable pour les Catalans, quoi. Enfin,
ah bon? T'as remarqué ça, toi?
Non, non, mais bon, attends.
Les mecs, alors, peut-être
s'il
que.
S'il n'y a pas pénalty, s'il n'y a pas.
Mais
a
je
pas
comprends pas, en fait. Les mecs du VAR, ils servent à quoi? Enfin, Dumfries, ils ne touchent vraiment pas Dumfries, le ballon de la main?
Alors, l'explication qu'il y a, que moi j'ai lu.
Il y a une explication.
C'est que, il aurait touché, le ballon lui aurait effleuré la tête avant de toucher la main, donc c'est considéré comme un rebond. C'est un peu capillotracté.
Ah, hein, mais le meilleur moment de VAR de la soirée, c'est pas trop sur ça, en fait. Hein. On va en parler tout à l'heure.
C'est pas trop sur cette action-là, moi, je trouve, parce que, honnêtement, alors je sais
c'est
pas.
Sur le but du Barça lui, tu veux dire.
Italienne. Ah, ouais, parce que la télé italienne, la main de Dumfries, on la voit pas, en fait. On n'a pas d'angle précis qui montre que le ballon est touché clairement.
Mais comment le ballon, il peut aller dans cette direction s'il touche pas la main?
Ah,
autant
mais,
l'explication
ouais,
de Fredo,
bon, bah, pas...
maintenant je vois ouais, ce qu'ils veulent dire, mais sinon.
Mais le VAR, c'est pas une supposition en fait. Il faut qu'il y ait une image claire.
On est d'accord.
Donc,
oui, ça s'appelle une erreur manifeste.
Sauf que l'image.
L'erreur manifeste, pour moi, elle est sur. L'erreur, elle est sur le but annulé, parce que justement, je suis retourné voir dans l'IFAB, parce qu'il y a les documents et tout. Et c'est bien précisé que tous les contacts avec la main ne sont pas une faute entre guillemets, et c'est même précisé les mains accidentelles par un coéquipier juste avant de marquer un but, jusqu'à avant qu'un but soit marqué, a été c'est-à-dire un texte de 2022 a été supprimé de des lois du jeu, donc maintenant ce n'est plus considéré comme une main.
Fredo, tu en Espagne, si tu veux alimenter ça peut être rigolo, alimenter un petit complot et tout, il était de quelle nationalité l'arbitre ce soir? Il me semble slovène.
Oh
le scandale.
Ah ben le Barça, ça marche mieux avec les Turcs. Hein.
Oh le scandale.
Monsieur
il était pas turc. Non, monsieur Aytekin, il est allemand.
Oui,
ah oui, c'est vrai, il est allemand.
D'origine turque. Non, mais et puis il y a aussi monsieur le norvégien, monsieur Ovrebo, le match de Chelsea.
Oui, fucking disgrace. Parce que lui, après, il a fait des gâteaux, donc on a oublié. Mais ce soir, il était slovène.
Bon, alors.
A-t-il pris un coup de fil de Seferin contre ses ennemis de la Super League?
Pour conclure,
ah oui, moi,
alimente-moi ce complot, bordel!
Oh là là, bah écoute.
Fais quelque chose!
Oui, parce qu'en Espagne, on n'a pas parlé du tout de ça.
En tout cas, le match retour,
non, ce soir, c'est ce qu'on fait.
Si tu trouves pas une trace de cette remarque demain dans les médias espagnols, demain soir, tu viens, tu mets un carton.
Je vais regarder.
Je suis sûr que tu trouves une trace de ça demain.
Le truc qu'il y a ce soir, non, c'est que le Barça fait ses calculs. Parce que le problème, il est là.
Oui, le match retour la semaine prochaine, il est chaud là. Sinon, c'est l'Europa League.
S'il n'y a pas de victoire contre l'Inter, le Barça aura du mal à se qualifier.
Bah, sinon, c'est l'Europa League, ils deviennent habitués là.
Le Bayern et l'Inter sont deux grands amis. La dernière journée, il va se passer plein de choses.
Alors, tu as un truc à dire sur le Bayern d'ailleurs, ils ont éclaté Pilsen 5-0.
Il n'y avait pas grand chose à dire sur cette rencontre, c'est plié. Ce qui est bien, c'est quasiment tous les joueurs à vocation offensive ont marqué ce soir, encore Mané. Évidemment, Sané, quand il joue comme ça, à mon avis, c'est l'un des meilleurs milieux offensifs du monde, si on doit considérer que c'est un milieu offensif. Non, c'est très bien. En plus, le Bayern a pu faire tourner pour le match contre Dortmund ce week-end, donc impeccable. Quoi.
Alors, passons à la poule de Liverpool qui a battu les Rangers, un duel britannique, comme Julien Laurence les aime. Bon, évidemment, Liverpool a gagné.
Et Alex Ferguson était en tribune, dis donc.
Ouais, bien sûr, puisque
il était venu soutenir Liverpool.
Rangers. Non, il a joué pour les Rangers, mais c'est la première fois qu'ils se rencontraient dans toute l'histoire. C'est quand même bizarre. Enfin, c'est
dingue ça.
Première confrontation européenne. C'était jamais affronté.
Ah, ça, c'est incroyable.
Et puis il y a toujours une atmosphère particulière, forcément, quand t'as des. Encore plus entre l'Écosse et l'Angleterre. Donc c'est vrai que c'était un match très attendu aussi pour voir si Liverpool allait sortir un petit peu de sa mini-crise et des problèmes, des difficultés qu'ils ont eu depuis le début de la saison. Klopp a changé son système. Il a joué en 4-2-3-1. Donc il a changé son 4-3-3 habituel. Lui qui d'habitude en change jamais puisqu'il avait fait que quelques fois. La dernière fois en 2020 contre Manchester City en championnat. C'était même plus un 4-2-4 vraiment parce qu'on avait et Jota et Diaz et Darwin Núñez et Mo Salah aussi. On a vu une équipe de Liverpool plus structurée, on va dire, défensivement, sans ballon. C'était un vrai 4-4-2 sans ballon où on a beaucoup aidé Trent Alexander-Arnold, par exemple, sur son côté, lui qui avait été encore à la ramasse
défensivement contre Brighton. On en parlait encore avec Johan l'autre jour. On les a vus dans la
construction son problème, en fait. Il a pris le boulard. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
Non, je pense que.
On en parlait le lundi. Je suis désolé de te faire redire.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais de toute façon, c'est un débat. Tu sais, depuis le match de Brighton samedi, on fait que d'en parler en Angleterre entre ceux qui disent voilà ce qui fait pas bien. Et d'ailleurs, tu le vois dans l'attitude, notamment dans l'attitude défensive, dans le manque d'effort. C'est trop limite en fait pour un joueur de sa qualité de ce niveau-là. Tu peux pas ne pas, par exemple, quand t'es battu en dribble, ça peut arriver. Tout le monde peut se faire dribbler, mais de pas te retourner, d'accélérer pour essayer de récupérer le ballon ou de récupérer une erreur que t'as pu faire. Et ben lui, il est assis par terre, et ben il reste par terre, il se lève pas. Il y a rien, tu vois. Il y a clairement un gros manque d'effort dans ce qu'il a pu faire récemment défensivement. Surtout, il y a un problème de positionnement. Souvent, il y a un problème d'attitude défensive, c'est-à-dire qu'il est souvent positionné. Il tourne son corps du mauvais côté, par exemple. Il est pas. Voilà, il y a plein de choses. Il regarde pas assez le joueur sur lequel il défend dans son dos. On peut faire toute une liste des erreurs qu'il a faites cette saison. Il n'est pas le seul. Et parfois, je pense qu'il manque aussi de soutien, c'est-à-dire que Salah défend pas assez, que le milieu côté droit défend pas assez non plus, vient pas l'aider assez. Parfois, il se retrouve en 2 contre 1. Voilà, il y a plein d'erreurs. Mais avec le ballon, il est tellement fort. On l'a vu sur le coup franc qu'il met après 7 minutes de jeu ce soir, qui finalement déclenche tout pour Liverpool, enlève beaucoup de pression. D'ouvrir le score si tôt, ça les a beaucoup aidés. Après, ils auraient dû marquer plus que 2 buts. Ils ont eu des grosses occasions. Darwin, Jota, Luis Diaz aussi. Donc au final, c'est une victoire importante. Dans la construction du jeu aussi, pour finir, on a vu des choses très différentes. C'est-à-dire que cette saison, je pense qu'ils étaient bien trop ambitieux dans la construction du jeu. Il y avait trop de joueurs qui allaient vers l'avant et ça les exposait beaucoup défensivement. Là, c'était un peu plus mesuré, on va dire. Et forcément, à la perte du ballon, vu que t'as moins de joueurs en phase offensive devant le ballon, et ben c'est plus facile de gérer les transitions offensives adverses. Donc il y avait des choses un peu différentes de d'habitude.
Okay.
Et c'est une belle victoire avant le match d'Arsenal samedi en championnat.
Julien, on va te laisser parce que on a parlé de tes clubs. On a plus besoin de toi.
D'accord. Bah, je voulais juste dire très rapidement. Tout à l'heure, je suis monté dans le métro ce matin à Londres. Et donc, je m'assois et en face de moi, il y a un gars et il me dit, excuse-moi, Julien. Il monte son téléphone. Il est en train d'écouter l'after d'hier soir. Donc, c'était marrant qu'on se rencontre comme ça. Donc, voilà, je voulais faire une petite dédicace à Ali. Grand fan de l'after, grand fan du PSG. Donc, voilà, c'était sympa.
Julien Laurence prend le métro. Waouh!
Mais tous les Londoniens prennent le métro.
Dis pas trop fort quand même. Tes amis à l'île de Ré pourraient entendre et on se dire c'est quoi ce sans-dent, il revient plus jamais à l'île de Ré.
Alors entre les embouteillages,
le métro, ça va pas ou quoi?
Et le péage du centre-ville, croyez-moi, c'est beaucoup mieux de prendre le métro à Londres.
Oui, c'est clair.
Parce qu'on a un péage, nous. Eh oui, péage du centre-ville.
Tout bientôt à Paris,
t'es en train de nous dire que t'habites pas dans Mayfair.
Pas encore. Si j'avais ton salaire, je pense que j'habiterais dans mes fers.
Oh, le pas mal celle-là.
Karim Nejari, Laurent Salvadon, si vous écoutez, hein, avec plaisir.
Salut Julien.
Ciao, demain soir.
Naples.
Un choc quand même, apprendre qu'il ne vit pas dans le centre de Londres.
Naples, leader de la Serie A, qui a éclaté l'Ajax 6-1. Là, ça commence à devenir du sérieux, là, Johan.
Oui.
Ah, ils ont mis une danse à l'Ajax et je peux vous dire que ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire. J'ai même pas envie de parler des stats qui sont sortis. Vous les retrouverez partout demain, je pense, sur tous les records qu'a battu Naples vis-à-vis de l'Ajax, les plus grosses défaites de l'Ajax depuis 60 piges, ce genre de trucs là. Mais
moi, au moins, juste ça. Ils avaient déjà pris ça à la maison.
Alors ça fait la dernière fois qu'ils avaient perdu avec autant d'écart, c'était en 64 contre Feyenoord. Et la dernière fois c'est la première fois en Coupe d'Europe qu'ils ont pris 6 buts à la maison. Donc voilà, c'est.
Ils n'en avaient pas pris une belle contre le PSG une année là, récente. Bon, enfin, bref.
C'est assez incroyable, honnêtement. Et j'ai même pas envie de parler des 20 dernières minutes où l'Ajax était à 10, puisque Tadić s'est fait expulser un peu bêtement, mais il y avait déjà 5-1 à ce moment-là. Ce que je disais à Daniel à la mi-temps, c'est qu'à la mi-temps, il y avait 3-1. S'il y avait 6-1 à la mi-temps, donc le résultat final, il n'y avait rien à dire. C'est-à-dire que le tarif ce soir 6-1, c'est le strict minimum. Parce qu'il y a eu d'autres occasions, Ndombele a touché la barre, Kvaratskhelia a tiré à 2 cm du poteau, il y a eu des arrêts aussi de passes verts. Honnêtement, moi ce qui me plaît, c'est en fait au-delà même de la victoire, parce que ça peut être aussi une soirée où tout a réussi, etc., c'est qu'ils sont allés à Amsterdam en se disant, nous on joue comme ça. Avec Spalletti, il nous a enseigné la manière de jouer avec le contrôle du ballon, avec chercher à la récupérer le plus rapidement possible, et ben Ajax ou pas Ajax, l'école hollandaise ou pas l'école hollandaise, les héritiers de Cruyff ou pas les héritiers de Cruyff, on va aller à la Johan Cruyff Arena. Et on va prendre le ballon, on va pas leur donner. Et quand ils vont l'avoir, on va leur mettre une pression de dingue pour le récupérer rapidement. Et ça, c'est une attitude, un courage qu'on voit trop peu souvent, notamment d'équipes italiennes en Coupe d'Europe, mais pas forcément que d'équipes italiennes. Et honnêtement, cet état d'esprit-là, ce courage, cette volonté de jouer son propre football à l'extérieur, sur la pelouse de l'Ajax. En fait, il y a un truc qui est très marquant, c'est Capello, il a, sur Sky, là, qui est consultant sur Sky, à la fin, il a dit un truc du genre, on a donné une leçon à une équipe qui a donné des leçons à tout le monde pendant des années et des années. Et honnêtement, ce soir, c'est une fête totale à Naples, évidemment. En Italie aussi, tout le monde souligne l'excellent travail de Spalletti, dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines dans l'after.
Alors justement, rapidement là-dessus, en plus Fred s'en souviendra parce qu'il est là, et nous, c'était les débuts de l'after. Spalletti a eu une carrière un peu particulière, parce que dans les années 2000, deuxième partie, quand il est à la Roma, tu te souviens du fameux Roma-Lyon? Qui au début de l'after avait été une des grandes soirées.
Le fameux passement de jambes de Mancini.
Voilà, ouais. Donc tout le monde se souvient de cette Roma, Totti, De Rossi. C'était une Roma spectaculaire pendant deux ans, vraiment fantastique, qui avait d'ailleurs sorti, Fred, tu dois te souvenir, le Real.
Le Real, bien sûr, en huitième.
Dans un match, pareil, très spectaculaire.
Si je me souviens bien, il gagne à Rome et il gagne au Bernabéu.
Alors, il y avait à ce moment-là peu d'équipes qui jouaient de cette façon, c'est-à-dire plutôt d'une façon comme on le voit beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire avec une espèce de pressing assez intense, récupération haute et verticalisation immédiate. Et c'est assez novateur quand il le dit.
Il y a un faux neuf, Daniel.
Pardon ?
Et un faux numéro 9, parce que tout le monde a parlé de Guardiola sur Messi, mais deux ans avant, Spalletti avait mis Totti en faux numéro 9.
Exactement, c'était assez novateur à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein d'équipes qui jouent comme ça, mais après, c'est bizarre parce que Spalletti a dirigé pas mal d'équipes. Bon, il s'était fracassé à Manchester, sa Roma s'était fracassé à Manchester United, dans un 7-1 totalement fou. Derrière, sa carrière, elle est un peu à trous. Il a entraîné pas mal de clubs. Moi, je pensais qu'il était un peu cuit, qu'on retrouverait jamais son jeu à Spalletti. Et là, d'ailleurs, on en a parlé à la mi-temps du match. Immédiatement, j'y repensais. Je me suis dit, tiens, c'est le Spalletti de la fin des années 2000, qui était un entraîneur dont on parlait beaucoup, un peu novateur. Là, ce qu'il arrive à faire à Naples, c'est ça.
Ouais, et puis ça reprend ce qu'il avait fait. Quand tu vois Raspadori en faux numéro 9, tu comprends, en fait. Tu comprends, c'est les mêmes mécanismes.
Il est en train d'exploser, Raspadori, là. Hein.
Mais ouais, parce que il est capable de marquer des buts, il est capable de prendre la profondeur, il est capable de faire jouer les autres, il est capable de reculer pour faire jouer les autres, il est bon techniquement, il est très intelligent. Alors, je suis pas en train de dire que c'est Totti, mais il a des qualités qui font que, aujourd'hui, il faut quand même préciser.
Il va même s'imposer en équipe nationale.
Non, mais ça fait des semaines que Naples joue sans sa recrue la plus chère de l'histoire, numéro 9, Victor Osimhen.
C'est vrai, on l'avait même oublié, c'est vrai, t'as raison, faut le dire. Ouais.
Et pour autant, le jeu est là, en fait. Et aujourd'hui, tu te demandes si Raspadori correspond pas plus, moi je pense que oui, à l'idée du football que se fait Spalletti pour son numéro 9 que Victor Osimhen. Et honnêtement, très sincèrement, Spalletti, c'est un des coachs les plus sous-cotés. Tu dis que c'est une carrière à trous, c'est vrai, parce qu'il avait choisi aussi l'exil avec un peu d'oseille au Zénith de Saint-Pétersbourg. Et dès que tu sors un peu des radars européens, enfin des européens, c'est un peu plus compliqué.
Non, mais après, il va à l'Inter,
c'est une des pires équipes de l'Inter. Avec, je pense qu'il a, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je le sais. Il a beaucoup de mal avec les stars qui ont des gros égos. C'est pas pour rien si à chaque fois qu'il va dans un club, le capitaine légendaire part. Totti à la Roma.
À l'époque, avec Totti, De Rossi, il en a des stars quand même.
Ouais, De Rossi, c'est pas une star, c'est pas ce que j'appelle une star.
Ouais, d'accord,
c'est pas un mec avec un ego comme avait Totti, comme avait Icardi à l'Inter, comme avait Insigne au Napoli. Donc ça lui a joué des tours, mais dans la configuration un peu underdog.
C'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il aime. Ouais.
Exactement.
Ouais.
Merci Johan. À demain.
Merci à vous, messieurs. Ciao, ciao.
Polo, je vais raconter ce qui s'est passé pour la VAR entre Porto et Leverkusen, pour ceux qui ont raté ça. Vas-y. Parce que c'est quand même du haut niveau. Donc Porto marque un but. Et voilà, on refait et tout, un peu de flottement. Et là, l'arbitre dit non, but refusé. Pénalty pour Leverkusen. Là, tu dis, hein, c'est quoi ce délire? Donc, il a remonté, ils ont remonté le fil, bien sûr, l'action était dans sa continuité. Bon, alors, ça s'est déjà vu. On l'a vu en Ligue 1, par exemple, plusieurs reprises, déjà.
C'est le Real Madrid il y a deux saisons.
Mais c'est vrai que quand ça arrive, ce genre de truc, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est ridicule.
Alors, moi, j'ai une suggestion. C'était un modèle de contre de Porto. Oui. En plus, c'était vraiment un beau. Et puis, n'oublie pas qu'à la 16e minute, si je me rappelle bien, il y a Hudson Odoi qui voit un de ses buts aussi qui est annulé parce que. Oui. 30 secondes avant, alors qu'il y avait un contre merveilleux aussi de Leverkusen, on annule un but qui était pour moi.
Oui, complètement. Non, mais ouais. Je ne juge pas si c'est pour l'équipe ou l'autre, c'est juste le truc. Alors, suggestion, arrêtons, ne remontons pas à partir du moment où le ballon a passé la ligne médiane, par exemple. Parce que le jour où tu as une action qui dure 5 minutes, sans se stopper, tu remontes jusqu'où en fait, enfin, bref, c'est une aberration totale.
Il y a plein de choses, mais tu sais, il y a eu, alors je vais pas, tout le monde connaît ma position sur la VAR, mais en Allemagne, on en a beaucoup parlé cette saison, je t'en avais dit, Gilbert, qu'on avait dit, alors c'est les 5 ans de la VAR, il n'y a rien à fêter, mais surtout, il y a des études faites par Kicker qui fait que les arbitres ont baissé de niveau. Parce qu'ils sentent plus le jeu, plus rien.
Parce qu'ils sont déresponsabilisés, par ailleurs.
Exactement. Mmh. Et même le système de primes et tout ça, comme ils sont faits, en fait, en gros, si c'est des bons petits soldats, tu vois, ils gagnent plus que des gars qui se rebellent un peu, tu vois. Et ben, ça, c'est le système très classique de.
Pour respecter les consignes à la lettre, sinon t'es sanctionné.
Exactement.
Ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'être corrigés par la VAR.
En fait, arbitre, c'est l'armée. C'est, tu vois, t'as un lieutenant, et si tu obéis pas au lieutenant, bah, tu dégages, tu vas au newf.
Grand chose.
Voilà.
Alors, juste pour la rencontre là. Alors moi, j'ai pas vécu un grand mardi, si tu veux, de Ligue des Champions, dans le sens où beaucoup des équipes que je regardais sont pas en grande forme, et c'est le cas de Leverkusen. Porto n'est pas non plus un grand Porto en ce moment, donc il y a eu des fautes techniques assez impressionnantes et à mon avis indignes d'un match de Ligue des Champions. Honnêtement, il y a le penalty en Patrick qui n'a toujours pas marqué un but en Ligue des Champions. C'est quand même assez dramatique. Et quand même, il y avait de la place, notamment en première mi-temps pour marquer à Porto, et finalement ça fait 2-0 pour Porto. Leverkusen a perdu deux joueurs. Frimpong a trouvé le moyen d'être exclu à la 90e pour un deuxième carton jaune alors qu'il y avait déjà 2-0 pour Porto, et puis Andrich a pris un nouveau carton jaune, donc ça va être compliqué. Donc la pression est évidemment sur Leverkusen, et même les journalistes sont en train de entre guillemets de lâcher complètement Seoane en disant qu'il c'est plus tenable sa position, alors que quand tu vois la rencontre de ce soir, tu sens que l'équipe elle a pas lâché non plus, mais il y a le problème de confiance, il y a les fautes techniques, etc. Et comme t'as, encore une fois, t'as pas un grand Porto, et contre Sao avec d'énormes soucis, je crois, après la déculottée qu'ils se sont pris contre Bruges, ça c'est pour passer la balle à Fred, c'était pas un grand match, mais en tout cas c'est une configuration dans ce groupe formidable.
Merci Polo, à demain.
Merci, ciao.
Salut Polo.
Ciao. Oui, finition avec l'Atlético. C'est vrai que Bruges, c'est impressionnant. Bruges a pris 0 but pour l'instant en Ligue des Champions.
Étonnant. 7 buts marqués, 9 points.
Exactement.
Sur victoire. Bon, ils sont qualifiés quasiment. Enfin, ça paraît impossible qu'ils soient pas qualifiés.
Griezmann est venu avec des cheveux bleus, il a raté un péno.
Alors, on se pose des questions pour l'équipe de France.
Griezmann, en fait, ne veut plus mettre un péno jamais dans sa vie, histoire.
Mais Benzema loupe un péno samedi, Griezmann ce soir. C'était le péno qui aurait pu faire le 2-1, donc qui aurait donné un peu d'émotion à ce match. L'Atlético, c'était pourri. Ils ont joué 15 minutes sur l'ensemble des 90 minutes, quoi. Voilà, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Simeone, ça marche plus. C'est-à-dire que le voir, il s'est encore pris un carton ce soir, le voir gesticuler et tout ça. Mais ça, on a l'impression que le ressort est cassé, en fait.
Avant, il motivait son équipe. Désormais, il gesticule.
Ben, c'est un peu ça. Bravo. Non, mais c'est ça. Non, mais ça marche plus. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas bien sur le terrain. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de, voilà. À un moment, il est là depuis 11 ans maintenant. C'est trop, quoi. C'est trop. Et cet Atlético. Mais vous savez, le pire, c'est que tu regardes ce soir, l'Atlético a perdu 2 matchs. Mais comme Bruges à 9 points, Porto 3 points, le Bayern Leverkusen 3 points, l'Atlético 3 points, ils peuvent encore se qualifier. Mmh. Et qu'est-ce qu'on dira en Espagne? Ah ouais, finalement, ne jamais enterrer Simeone, il est toujours là, etc. Mmh. Et on réglera pas le problème. Non mais tu vois, c'est alors que le jeu est pathétique, pathétique.
Merci Fredo, bonne soirée.
Merci les amis, à demain.
Je t'ai envoyé un cadeau, hein.
Et forcément, oui, je vais lire, ça m'intéresse.
Tout s'explique, cet arbitre. Je te l'ai dit qu'il y aura des choses. De raconte-nous demain soir. Hein.
Je voulais qu'on prenne le temps de parler de Lyon, mais on n'a plus le temps malheureusement. En deux mots, allez sur rmcsport.fr, vous avez tout. Ola se dit, on ne s'est pas trompé sur le recrutement. Govou dit, Ola s'est entouré de personnes incompétentes. Voilà, je vous ai dit l'essentiel.
Oui, c'est un bon résumé, oui.
Voilà, et tiens, il y a un podcast OL qui est en ligne avec Fred Guerra qui parle de tout ça, je vous le conseille. Et puis je conclurai comme j'ai démarré et je remercie BBA34D sur Twitter qui m'envoie la déclaration de Vitas Gerulaitis qui, après avoir perdu 16 fois d'affilée contre Connors, le bat en demi-finale du Masters, on est là en 1980, il arrive en conférence de presse, il dit: et que cela vous serve de leçon à tous, personne ne bat Gerulaitis 17 fois d'affilée. C'est génial, j'adore. Ça peut fonctionner pour l'OM. Que tout le monde le sache, personne ne peut battre l'OM 17 fois d'affilée.
Bonne nuit.
Bonne nuit, à demain soir avec une nouvelle soirée Ligue des Champions. Bye bye.
RMC jusqu'à minuit 30. L'After Foot.